Encore quelques secondes. Ok, c'est bon, c'est la fin de la musique. On change un peu d'ambiance musicale. Voilà, vous savez que j'aime les guitares qui font du bruit et les grosses batteries. Tout ce qui est un petit peu rock et autour. Et puis, j'ai découvert des sons un peu différents là, dans ma playlist là, sur ma musique libre de droit. Ça s'appelle Synth Wave. Ouais. Et alors tout le monde connaissait sauf moi. Et je découvre des trucs assez sympas là. Pas mal celle-ci. Helium Drive, c'était le titre. ELFL, c'est l'artiste ou c'est le groupe. Voilà. Ça nous ramène, alors pour les plus vieux, des décennies en arrière, et puis pour les plus jeunes, je sais pas, peut-être un truc plus récent quoi. Sony, voilà, parle de New Wave un petit peu des années 80. C'était plutôt pas mal ça. Pour un réveil, c'est pas mal. Alors réveil, oui, on est tôt ce matin, 8h43, un peu plus tôt que d'habitude, pour des raisons de timing, d'emploi du temps, parce que je me suis rendu compte en ouvrant mon agenda ce matin que j'avais une réunion à 11h ce matin, voilà, donc ça veut dire que je vous abandonne à 10h45. Ouais. Saut Dépêche Mode, ah c'est peut-être pour ça que ça me plaît alors, remake, salut. 10h45, je vous abonne à 10h45, ça veut dire qu'on a deux heures ensemble, autant dire que on va tryharder l'actu, hein. L'intro va pas durer très longtemps, boum, on va y aller, avec des actus, des articles assez intéressants, et notamment des attentes, hein, dans le chat hier, pour la revue de presse de ce début de semaine, lundi. Certains me disaient, mais pourquoi tu parles pas de cet événement-là et de celui-ci? Je pense à deux événements en particulier, l'un en France, l'autre en Argentine. Et je vous disais, bah écoutez, ici on aime ne pas se précipiter parfois et attendre un jour de plus pour avoir les bons articles, ce compris un petit peu le temps peut-être de s'informer, de vérifier des infos. Et en fait, j'avais cette envie d'attendre un tout petit peu, c'est-à-dire 24 heures. Qu'est-ce que c'est 24 heures par rapport à l'importance de mettre les bons mots sur une actu? Et ce matin, je vous ai trouvé les articles que j'attendais, en fait, sur ces deux événements. Le premier en France, hein, ce qui s'est passé dans un petit village de la Drôme autour d'une fête, là, un truc dramatique. Donc, c'était la une du Parisien ce matin. Et puis, ce qui s'est passé en Argentine aussi, la présidentielle, voilà. Il y a mangeur de cucurbitacées qui dit « Salut Sam, pourquoi tu as refusé le rôle principal du film Napoléon ?» Alors, je ne sais pas comment tu as eu l'info. Effectivement, j'ai refusé. Alors, c'est bizarre parce que personne ne le sait. J'ai refusé le prix. Le prix. Le mec est déjà au César et aux Oscars. Quelqu'un m'a chopé ma vanne que j'allais faire. Là. Il y a Charon le gros qui vient de me choper ma vanne que j'allais faire, qu'il a deviné la vanne qui arrivait. J'ai refusé le rôle parce qu'ils m'ont trouvé trop grand. Bien sûr, voilà. Bon, mais certains avaient déjà anticipé sur la vanne. Voilà. Voilà, Magicien 6, effectivement, c'est ce qui s'est passé à Crépole dont on va parler ce matin. Un petit coucou au courageux de la ligne 4 du métro parisien, je pense. C'est Nabus qui est dans une ligne bondée. Bon courage. Ah non, pas Covid finalement. Je me suis testé, pas Covid. Je me suis testé, puisque j'avais une petite forme depuis quelques jours, petit virus. Pas Covid, donc plutôt un autre virus que mes enfants ont eu ces derniers jours. Mais là, ça va mieux, je ne sais pas si ça se voit. Bouletto, au moins 2 mois que je n'ai pas regardé le live, moi non plus. Moi, ça fait bien un bon moment que je n'ai pas regardé cette chaîne. Je la fais, mais est-ce que je la regarde? Oui, de temps en temps, oui, pour des montages. Oui, c'est vrai. Le Dagda, c'est un truc que j'explique assez régulièrement. Il y a le Dagda qui nous dit « En vrai, Napoléon était grand pour sa génération. » En fait, le mythe d'un Napoléon petit, c'est un mythe, en fait. Puisqu'on estime que Napoléon, en fait, faisait entre 1m68 et 69, ce qui n'est pas très très grand, parce que c'est peu ou prou ma taille. Mais pour l'époque, en fait, c'était pas mal, en fait. C'était pas mal, en fait. Donc, petit, je pense que c'est un peu une invention de ses ennemis, et Dieu sait s'il en avait, Napoléon, notamment en Europe. Alors il y a MMG qui dit comme Nicolas Sarkozy, alors oui c'était petit, c'était pas petit à l'époque, aujourd'hui c'est petit, je sais parce que je fais cette taille là, voilà. Et puis aussi parce qu'il était entouré de soldats qui parfois étaient il y a Ifatou qui n'arrête pas de spammer sur la caméra pixelise, il fait un truc s'il te plaît, je suis pas sûr que ça pixelise, t'as pixelé peut-être chez toi. Je pense que quand tu es tout seul à dire un truc dans un chat, c'est parfois le. Mais peut-être que c'est le cas. Est-ce que la caméra pixelise? Moi, j'ai un retour qui est parfait. Non, ça pixelise pas. Ta gueule, la cam est bien. Désolé, il fait tout. Ouais. Ça, c'est une règle qu'on peut dire, voilà, ok, la caméra, vidéo nickel, cam nickel chez moi. Tu vois, il fait tout. Quand tu es tout seul à dire un truc, c'est peut-être que le problème est de ton côté. Voilà. Donc voilà, pour revenir à Napoléon, peut-être qu'il était entouré aussi de soldats assez grands, notamment les grognards, la garde, cette garde qui meurt et ne se rend pas. Et donc en fait, il n'était pas si petit, Napoléon, effectivement. Voilà. Enfin, pour l'époque. Clovis, je t'ai vu, merci pour le cinquième mois d'abonnement. XVX Fonzix, merci pour le Prime. Retour of the Duke, merci pour le Prime. Tristan, merci pour le soutien. Oh purée, il y a le sosie de Arnaud de sa mère devant moi, mais genre mon âge. Sarah, tu es où? Sarah, tu es dans le métro, tu es. Quoi, tu as un sosie de Arnaud de sa mère devant toi, mais en plus jeune? Est-ce que tu induis qu'Arnaud est vieux? Tu sais qu'Arnaud, il regarde ce stream de temps en temps. Hein. J'ai pas bien entendu, me dit Alain Melon. Il était entouré de Denis Grognard, exactement. Napoléon qui a participé à l'époque à ce jeu célèbre avec les poteaux qu'on appelait Colantus à l'époque, qui a changé de nom, qui est devenu Colanta. Napoléon qui a, alors ça, très peu de gens le savent, mais les historiens sérieux l'ont rapporté, Napoléon qui a effectivement participé à Colantus à l'époque, il a gagné 12 fois d'ailleurs. Oui, Alain Melon, j'avoue que ce pseudo est assez charmant. Francis, tu es d'accord. De rien. Quand vous avez besoin d'infos les plus what the fuck et imprécises possibles, demandez-moi, je suis là pour vous. Ah, joli. Ney qui me dit Napoléon seul sur une île, il connaît. Il y a de la ref historique. Joli. Et vous êtes plusieurs à faire le petit clin d'œil. Voilà. Bravo. Ouais. Tu as Virginie et Fira derrière toi. Non, c'est Tintin. Oh, à propos de BD d'ailleurs, puisqu'on parle de Tintin, il y a un nouvel album de Gaston Lagaffe qui sort aujourd'hui. C'est énorme hein, dans le monde de la BD, puisque c'est une première depuis presque, j'ai plus le chiffre en tête, mais presque 30 ans. Depuis la mort, en fait... De Franquin, si je dis pas de bêtises, je suis pas un grand spécialiste de l'œuvre de l'univers de Gaston Lagaffe, pour des raisons précises, c'est parce qu'en fait lui ne voulait pas que son héros lui survive et que sa fille, son héritière, ne voulait pas non plus. Donc il y a un album qui sort aujourd'hui dans des conditions un petit peu polémiques. 800 000 BD tirés, voilà. Il y a un bel article dans le Parisien à ce sujet, d'ailleurs on finira avec ça, je trouve ça assez intéressant. D'abord parce que l'album a l'air... Il y a Yuekin qui dit Franquin n'a aucun intérêt, sans Franquin. L'article dit que l'album est vraiment réussi et tout le monde s'accorde à dire que l'album est cool. Moi c'est un peu le sentiment que j'ai aussi et j'avoue que je vais l'acheter. Pourquoi? Parce qu'en fait je me dis que ça peut être une bonne façon de faire découvrir à mes enfants l'univers de Gaston Lagaffe avec le dernier. Et qui est toujours dans les années 70, hein, il a vraiment respecté l'univers de Gaston Lagaffe, ce qui pourrait leur donner envie de redécouvrir l'univers de Gaston Lagaffe. Je crois qu'il y a une vingtaine d'albums en tout, quoi. On va parler de ça aussi ce matin. Ouais. On en parlera, il y a un bel article dans le Parisien. Et Gaston, le téléphone qui sonne, non, c'est autre chose, ça. C'est une chanson, ça, mais je suis pas sûr que le Gaston... C'est Nino Ferrer non, qui chantait ça. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. Boum, boum, personne qui répond d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que ce Gaston de Nino Ferrer soit le même que le Gaston Lagaffe d'ailleurs. Ouais. Mais achète-leur les vieux, alors ce sera plus respectueux. On aura ce débat tout à l'heure de savoir si c'est respectueux ou pas. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un problème de droit, vous verrez. Entre ce qu'avait dit oralement, on va dire, Franquin, sur le fait qu'il ne voulait pas que Lagaffe le survive, et en fait les droits de la société qu'il avait cédé, qu'il avait vendu, et le contrat ne s'opposait pas, en fait, à ce qu'il y ait des suites. Voilà. Alors c'est compliqué. L'expression qu'il avait, lui, émise, qui ne voulait pas qu'il y ait de nouveau Gaston Lagaffe, et en même temps il avait vendu la société et puis les droits et le contrat en n'excluant pas cette possibilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Donc, c'est ce que nous raconte l'article tout à l'heure. C'est vachement intéressant. C'est mignon, il y a Rob qui nous raconte cette anecdote qui est toute choute. Quand j'étais petite, une amie de ma sœur m'a dit qu'elle voulait me donner plein de BD de Lagaffe. J'étais trop déçu quand je les ai eus car je croyais que ça allait être des BD de Vincent Lagaffe. C'est trop chou, c'est trop chou. J'espère que tu te rends compte que c'est mieux quand même des BD de Gaston Lagaffe que de Vincent Lagaffe. C'est drôle, c'est drôle. Bon, en tout cas, merci d'être avec moi. Ça va être une revue de presse express puisqu'on se quitte à 10h45. On va tryharder l'actu, mais avec des chouettes articles et des sujets extrêmement intéressants. Ce matin, on est d'accord que Gaston Lagaffe, c'est mieux que Vincent Lagaffe. Je suis sûr qu'il existe des BD du Big Deal, me dit Monsieur Biganon. Big Deal, Vincent Lagaffe. Je crois qu'hélas, c'est quasiment sûr aussi. Je suis pas sûr que ce soit une super bonne nouvelle pour l'univers de la bande dessinée, mais je suis sûr que ça existe. Bon, ça va vous sinon? On y va ou bien? Prêt, vous êtes prêt? Prêt? N'oubliez pas, vendredi soir, l'hebdo l'Étienne. Voilà, avec plein de super invités, le retour de Poulpe notamment, hein, le retour, pas le retour, la première fois de Bruno Guillon, l'animateur de France 2, un des mecs les plus sympas du PAF. Son premier stream sera vendredi soir. Ouais, c'est assez vendredi. Et puis ça me plaît, dimanche 20h, un nouveau jeu à découvrir. On s'est un peu fendu la poire sur Valorant dimanche soir tellement j'étais mauvais et c'était drôle avec Juliette. Et dimanche, on va découvrir l'univers de Hitman, voilà, dimanche 20h. Papa, et bon télétravail à toi. Ah, c'est pas impossible. MMGCTF, à propos de Vincent Lagaffe, me dit, il voulait s'appeler Vincent Lagaffe en hommage à Gaston Lagaffe, mais les ayants droit lui ont dit niette, d'où le Lagaffe. Lagaffe, orthographié différemment. Ah, c'est drôle. Bon pédiatre, Mumured. J'espère que Poulpe sera plus sobre que la dernière fois, me dit Choupi. Non. Poulpe, la dernière fois, n'était pas ivre. À plusieurs reprises, on lui a posé la question et il a répondu très clairement, d'une façon très intelligible, qu'il était ivre de joie. ceux qui étaient là à la dernière émission avec Poulpe, le dernier vendredi Étienne, ont la rêve de cette émission. Voilà. Il était ivre de joie, Poulpi. Voilà. Je pense qu'avec Bruno Guillon, avec Poulpi, ça peut être une émission vendredi prochain qui va être énorme. Est-ce que j'ai arrêté l'hebdo Étienne sur Spotify? Non, Adrien Maslia, mais alors je vais balancer, désolé, c'est l'ami Joe qui m'a dit à un moment, ah, je m'en occupe, c'est moi qui vais mettre l'hebdo Étienne en podcast sur Spotify, t'occupes de rien, je m'en occupe, puisque j'avais d'autres personnes gentiment qui m'avaient dit, ben Sam, si tu veux, moi je m'en occupe de mettre l'hebdo Étienne en podcast sur Spotify parce que c'est une vraie demande de plein de gens. Et Joe m'a dit non, je m'en occupe. Bon. Maintenant, vous savez qui aller voir. je crois que Joe est très occupé, il ne peut pas dire que ce soit. Voilà. Voilà, donc bon, voilà. Bon, bah, j'ai balancé, hein. Maintenant, vous savez où envoyer vos réclamations. Toujours la faute des autres. Non, pour le coup, c'est une vraie histoire. Voilà, pour le coup, c'est une vraie histoire. Voilà. Non. Je pense qu'on va te voir dans le rewind de ce soir. Peut-être, mais je ne veux pas squatter le rewind parce qu'avec Simplay, je squatte beaucoup le rewind de Popcorn parce que je suis très, c'est très drôle de me voir jouer aux jeux vidéo. Tu vois, j'ai peur de squatter systématiquement le rewind à cause ou grâce de Simplay. Donc, ils ne sont pas obligés de me mettre tous les mardis non plus, quoi. Mangeur de cucurbitacées le dit. Comment tu vis le fait d'être sur le rewind de Twitch toutes les semaines? Bah, c'est une grande fierté. Hein. J'aime beaucoup Popcorn. Comment ne pas aimer Popcorn? Le rewind, c'est formidable. Il y a la voix de Thomas Dessert aussi, quelqu'un que j'adore. Donc je suis très fier, en fait. Très heureux d'être dans le rewind. Mais après, c'est pas une obligation non plus, quoi. Vivement PA dans Simplay. Peut-être que PA, on va se croiser sur un stream bientôt. J'ai rien dit. Peut-être qu'on va se croiser avec Domingo dans un stream bientôt, peut-être, je sais pas, peut-être que j'ai rien dit. Te voir jouer est un supplice, me dit Lucas. C'est ça qui est bon. Allez, c'est parti. Panda Nirio, merci pour le 19e mois d'abonnement, merci pour ce soutien, c'est grâce à vous que je suis là. Liandril, merci pour le Prime. Adri Maslia, merci pour le Prime et pour ta question sur Spotify tout à l'heure. Bientôt un truc, peut-être avec Domingo, mais je n'ai rien dit. Vivement étoile dans Question pour un champion, surtout Liandril, on sera des millions, que dis-je, des milliards au rendez-vous quand étoile, un jour, je ne sais pas quand, j'ai aucune idée, viendra jouer à Question pour un champion. C'est peut-être dans 15 jours, c'est peut-être dans 6 mois, c'est peut-être dans 1 an, c'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être avec mon successeur l'animateur ou l'animatrice qui me remplacera un jour, parce que je ne sais absolument pas quand étoile aura envie de venir jouer. En vrai, en même temps, c'est drôle qu'ils ne viennent pas jouer non plus, ça crée une attente, un suspense, donc c'est pas non plus parce qu'en soi c'est pas une obligation, quoi. Voilà. Mais ce sera un grand moment, ça c'est sûr, ce sera un grand moment. Oh, c'est trop mignon, il y a Woodcraft qui nous écoute en promenant son chien, il a vu deux biches et une cigogne. Tu n'es pas parisien, toi, hein? Trop mignon. Cathy Préfleury, merci pour ce joli pseudo et ce 6e mois d'abonnement. C'est quoi déjà QSMP? Parce que Athée Baobab et d'autres m'en parlent. C'est quoi QSMP? Alors, QPUC, je connais ces questions pour un champion. Mais QSMP, c'est quoi déjà? Je ne sais plus. C'est un serveur privé de Minecraft, ok. C'est un événement Minecraft, ok. Et il est un peu là-dedans, ce moment, mon Rayou, c'est ça. Limul nous demande un conseil pour son entretien d'embauche à 11h. Et méga confiance en toi. Vends-toi. Montre ton envie, si le boulot te fait vraiment envie. Ta motivation. Fais passer l'idée que, voilà, que de tous les candidats que tes employeurs potentiels peuvent recevoir, tu seras le plus motivé. T'es peut-être pas le plus malin, t'es peut-être pas le plus brillant, t'es peut-être pas le plus diplômé, mais t'es celui qui va tout donner et t'es celui qui donnera satisfaction. Tu vois, tu fais passer ce message. Dis-leur. Voilà. Dis-leur que tu vas, qu'ils vont kiffer, qu'ils vont jamais regretter cette décision, quoi. Voilà. À la motivation, quoi. Et puis bon courage surtout. Puis ça va le faire. Voilà. Alice nous dit ainsi sur tes compétences. Oui, t'as raison aussi. Tes compétences et ton envie. Voilà. Montre que tu as peut-être déjà donné satisfaction à d'autres dans le passé qui n'ont pas eu à le regretter dans le cadre de stage ou de boulot avant. Voilà. Ou même dans le cadre de tes études, que tu es quelqu'un de fiable. Je crois qu'un employeur, bon, il y a des bons, il y a des mauvais, mais un employeur, il a besoin d'être rassuré aussi. Hein. C'est un pari de choisir tel ou tel. Voilà. Et je crois qu'à un moment, un employeur qui est aussi un être humain, il a besoin d'être rassuré dans ta capacité à remplir les missions qui vont être données, que tu vas être vraiment un plus pour l'entreprise, quoi. Il faut le rassurer quelque part, il faut que tu trouves le moyen, en l'écoutant aussi beaucoup, hein, parce que c'est ça qui est important, de le rassurer. N'aie pas peur de poser des questions et de montrer que tu t'intéresses à l'entreprise. C'est bien ça, Alex Gaming Crew, mais ça me semble un petit peu insuffisant quand même. Voilà. Le côté curieux sur l'entreprise, normalement, tu es censé avoir fait le boulot avant. Moi, je suis un petit peu sceptique par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faut le boulot de connaissance sur l'entreprise, il faut l'avoir fait avant. Il faut plutôt montrer dans l'entretien que tu connais l'entreprise et que tu t'es déjà hyper renseigné, quoi. Si tu arrives en mode « Eh, ça a l'air sympa ce que vous faites dans cette boîte, racontez-moi. » C'est cool, hein, c'est sympa, hein, t'es curieux et tout, mais moi, je pense qu'il vaut mieux que tu montres dans la discussion que bah, le boulot, tu l'as déjà fait, en fait, et que tu connais bien la boîte, quoi. Ouais, dis-lui que tu as été coaché par Samuel Etienne aussi ce matin. On sait jamais, tu vas tomber sur un fan de questions pour un champion. Ça va être plié en 2-2, quoi. Voilà. Ou dis-leur que tu es le cousin germain de Samuel Etienne. Ouais. Il faut mettre tes valeurs en valeur, tes compétences par rapport à l'offre proposée. Ouais, c'est juste ça. C'est juste ça. Bon, tu as eu droit à un petit coaching là. Oh, on a un ami chocolatier, Paul Gardère, qui est avec nous, qui est salué par MMG7F. Paul Gardère, qui est un chocolatier et qui est un streamer aussi, qui stream son travail. Kitagawa, tu n'es pas en retard. Salut chocolatier Paul Gardère. Allez voir cette jolie chaîne qui est dans le chat ici. Je pense que les modos vont vous l'épingler même. Le Justine Show. J'aime bien ce pseudo. Merci pour ce 19e mois d'abonnement. Allez, c'est parti parce que c'est un stream assez court ce matin. Hop. Je me mets sur le sommaire, c'est-à-dire que je vais vous donner, pour ceux qui n'ont même pas 2 heures ce matin, qui sont un petit peu à la bourre, mais qui n'ont que 5 minutes, l'essentiel de l'actualité en 5 minutes, le nœud que font tes écouteurs me stresse. Ah ouais, j'ai un petit nœud là. Oh, allez, je vous l'enlève. Allez, ceux qui n'ont que 5 minutes, je vous donne l'essentiel de l'actu. Avec d'abord ce drame. Hein. Certains m'interrogeaient dès hier, mais Sam, tu ne nous parles pas du drame de Crépol. Et j'ai dit, attendons un tout petit peu, je voudrais avoir des articles un peu précis sur le sujet. Et je fais bien parce qu'il y a encore beaucoup de flou sur cette histoire. Voilà. Bene, est-ce qu'on peut. Pardon, je fais une toute petite pause. Est-ce qu'on peut fêter un bon anniversaire à Bene qui fête ses 20 ans ? 20 ans ! Ah non, c'était 20 mois d'abonnement. Pardon, tu disais dans un premier message que je pensais que c'était ton anniversaire. Bon, merci pour ce 20e mois d'abonnement. C'est encore assez flou cette histoire, mais à un moment, il faut vous en parler. Ce qui s'est passé à Crépol, c'est quand même dramatique. Il y a eu la mort d'un jeune homme de 16 ans qui s'appelait Thomas. Thomas, 16 ans, est mort. Deux personnes grièvement blessées. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, après des violences inouïes lors d'un bal de village. Voilà. Les auteurs étaient toujours en fuite lundi soir. Alors c'était un bal de village, c'était une fête dans un petit village de quelques centaines d'habitants. Et puis c'est encore un peu flou, mais on a des témoignages qui sont eux relativement clairs. Défécateur officiel, merci pour ton soutien, cette deuxième année d'abonnement. Allez voir le formidable travail de Défécateur officiel sur YouTube et sur Twitch en matière de lutte contre les mauvaises informations. Et l'article est intéressant parce qu'il nous donne ce que l'on sait. Et aussi ce qu'on ne sait pas, voilà. En gros, alors vous allez voir, il y a un débat sur les mots parce que l'enquête est ouverte sur une rixe. Hein. C'est ce que dit le procureur, le mot rixe. Une rixe, c'est une bagarre, voilà, qui implique deux camps, alors que nombreux témoins disent que c'est absolument pas une rixe. Tout simplement, ce sont des jeunes armés de couteaux qui ont tendu un espèce de guet-apens aux participants de cette soirée, qui les ont attendus à la sortie du bal, en fait, et se sont acharnés sur eux en les attaquant avec une extrême violence, ce qui n'est pas une rixe, hein, ce qui est une attaque, ce qui est un guet-apens. Voilà. Donc on va se pencher sur les mots, parce que c'est important, avec la plus grande prudence aussi, parce qu'une enquête est en cours. Parmi les questions en suspens, c'est est-ce que tous les assaillants viendraient du même quartier, de la même ville ? Certains sont très catégorique là-dessus, et la justice un peu moins, le procureur appelle justement à ne pas se précipiter, mais on va se pencher quand même sur ce sujet qui est gravissime. Deux pages et la une du Parisien ce matin. De la même manière, hier, vous étiez plusieurs à m'interpeller dans le stream en disant « Waouh, tu vois, il y a l'Unix qui dit « Une pensée à Thomas, parti trop tôt ». C'est lui, hein. Il a 16 ans le gamin. Hein. Ma cousine le connaissait, elle est très choquée. Voilà, donc on va revenir sur cette affaire. Hier, vous étiez plusieurs à m'interpeller. Et Sam, tu ne nous parles pas de l'Argentine, la présidentielle d'Argentine. Non, parce qu'on n'avait pas encore d'article très, très étoffé. Et là, on en a. Donc, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé en Argentine avec l'élection surprise d'un candidat qui s'appelle Javier Milei en Argentine. L'ultra-libéral. Alors, vous verrez que selon les journaux, certains le qualifient de candidat anti-système, d'ultra-libéral, d'extrême droite même. Ouais. Alors, je dis surprise parce que il y a H. Renard qui me dit comment ça surprise. Peut-être que les sondages donnaient sa victoire. Je dis surprise parce qu'il y a 3 ans, personne ne connaissait ce gars. Il est venu de nulle part, il s'est fait connaître sur les plateaux télé en économiste ou alors plutôt en commentateur de l'économie, pas forcément un spécialiste d'économie, avec un discours très radical. Il faisait un petit peu le spectacle par son ton, parfois un peu outrancier, par aussi son look, une coiffure un peu particulière. Voilà. Donc il a fait beaucoup. Voilà. Et 3 ans plus tard, il est président de la République. C'est là où c'est un peu une surprise. C'est un parcours un peu étonnant. Quoi. On va se pencher sur ça. Article dans Le Monde. Hein. Là, on ne va pas lésiner sur les articles pour essayer de comprendre le phénomène qui est un peu étonnant. Dossier dans Libération, un sacre à la tronçonneuse. Bon, là, on salue la science des titres de Libération. Hein. Ce n'est pas un massacre à la tronçonneuse. Le film est un sacre à tronçonneuse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous le voyez sur ce bout de photo là, pendant ces meetings, Javier Milei avait pris l'habitude de brandir une tronçonneuse. Voilà. Alors, c'est vrai, c'est drôle parce qu'il y a Mianistra qui dit il veut par ailleurs rendre légale la vente d'organes. Alors, ce n'est pas pour illustrer la vente d'organes à tronçonneuse, c'est tout simplement pour symboliser les coupes budgétaires radical qu'il veut exercer en supprimant toutes les aides sociales. Voilà. Est-ce qu'il est un petit peu fou devant Tagu ? Ben, regarde, je te montre la une de l'Humanité. Pour l'UMA, oui. Voilà. C'est un fou dangereux. Alors, tout le monde n'est pas de cet avis. Voilà. Il y a des gens comme Donald Trump où donc l'ancien président américain, qui s'est illustré notamment par l'événement du Capitole, entre autres, et les poursuites judiciaires dont il est l'objet aujourd'hui, qui pourrait être bien le prochain président américain d'ailleurs, parce qu'il entend bien se représenter, ou Jair Bolsonaro, l'ancien président d'extrême droite du Brésil, qui l'ont félicité. Voilà. C'est intéressant de voir qui le félicite aussi, parce que ça montre aussi un petit peu dans quel camp il se situe. On se croirait dans une série Netflix, j'en peux plus, dit Remax. C'est vrai que c'est assez hallucinant, l'histoire est assez étonnante, quoi. Il y a Pubi sur Long qui écrit « Les anti-systèmes me font rire, ce sont les premiers à profiter du système ». C'est un commentaire intéressant aussi. Ouais. Oui, alors ok pour vendre les organes, mais il veut interdire l'IVG aussi. Ouais. Il est anti-féministe, il est anti-IVG, il est anti-aide sociale. Voilà. C'est un programme, on va le dire comme ça, particulier, quoi. Je trouve ça surréaliste que des électeurs votent pour un mec qui promet de couper toutes les aides sociales. L'IAM, alors c'est un peu le paradoxe de cette élection. Il y a énormément de gens qui ont voté pour lui, qui vont voir leurs aides sociales supprimées. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Voilà, c'est aussi parce que l'État argentin, le pays, est dans un sale état et que certains pensent que ça peut être, je suis en train de m'enrhumer, une planche de salut. Vous savez, parfois, quand ça ne va pas, on se réfugie dans les bras de tel ou tel homme politique ou femme politique providentielle qui promet la lune, voilà. Avec, tu vois, il y a Fedo qui dit pourquoi les gens ont voté pour lui, parce que je pense que c'est ce que je suis en train de vous expliquer. À un moment, quand ça ne va pas, eh bien, l'humain, le citoyen, peut avoir tendance à se réfugier dans les bras de celui ou de celle qui promet la lune, même quand il n'y a aucune chance que ça puisse arriver. Voilà. On se penchera sur ça. Voilà. Mais quelque part, cette situation où un quasi inconnu, en tout cas politiquement, comment dire, avec expérience politique assez réduite, et propulsé en très peu de temps à la tête du pouvoir dans certains pays, c'est quand même un truc qui est en train de se produire de plus en plus souvent à travers la planète, quoi. Voilà, défécateur officiel qui nous a rejoint dit c'est un peu, voilà, c'est le réflexe de l'électeur qui dit on n'a pas encore essayé ça, bon, ça a l'air un peu zarbi, mais pourquoi pas, ça ne peut pas être pire. Voilà. Alors, vous êtes plusieurs à dire à l'instant, c'est marrant, comme Macron, papaye, comme Macron, Thiel Paris, Macron était aussi un inconnu. Ancien ministre de l'économie, quand même. C'est un inconnu. C'est-à-dire que Macron s'est pas fait connaître sur les plateaux télé, avec une coupe de cheveux un peu zarbi comme ce président argentin, s'est pas fait connaître dans une émission de télé-réalité comme Donald Trump, ou en gérant l'infortune dont il avait filé son papa. Vous voyez, c'est pas quand même pas tout à fait le même profil. L'ancien ministre de l'économie, quand même. Vous voyez, c'est pas inconnu. Ouais. Ou alors vous suivez pas trop l'actualité, quoi. C'est pas tout à fait la même chose, je pense. Silent Bubbles World, merci pour ce troisième mois d'abonnement. Il piotre pour ce très gentil message, c'est très touchant, merci, ça me fait plaisir, pour ce 15e mois d'abonnement. Donc, on se penchera sur ça, et puis vous voyez, d'ailleurs c'est aussi la une du Monde. Et puis alors, comment ne pas parler au quotidien du Proche-Orient? Il arrivera, je vous l'annonce, hein, imagine, merci Dreamin Low pour ce 6e mois d'abonnement et le salut. Imaginons que l'offensive israélienne dans la bande de Gaza se poursuive encore des jours et des semaines, voire des mois, avec le bilan humain qui va avec ça, il va arriver un moment où les médias vont commencer à moins en parler. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que les médias, et pas seulement les médias, parce que le public, à un moment, va s'habituer, va se désintéresser, va, en lisant les journaux sur ce sujet, dire « Ah oui, encore, bah, le Proche-Orient, bah oui, bah, c'est bon, j'ai compris, hein, oui, d'accord, ok ». Voilà. Ça n'est pas encore le cas. Voilà. Ici, on en parle quasiment tous les jours depuis cette semaine, depuis les attentats du Hamas et la réplique israélienne qui a suivi. Ça n'est pas le cas, mais ce moment arrivera un jour. Là, c'est encore à la une du Monde. La ville de Gaza brisée entre ruines et quartiers fantômes. C'est un reportage qui est très très fort, que je vous invite à lire, parce que je ne vous le lirai pas dans son intégralité. Pages 2 et 3 dans Le Monde, je vous lirai juste le constat du Monde, à savoir que la ville de Gaza est sinon rasée, en tout cas extrêmement abîmée. Et là, c'est le quotidien des habitants dont on parle. Donc ça, c'est la ville de Gaza, mais ça vaut pour une bonne partie de la bande de Gaza, la partie nord et la partie sud demain, puisque l'armée israélienne va sans doute se diriger vers la partie sud de la bande de Gaza. Et il y a un édito du Monde. Donc c'est ce moment où le journal prend la parole, donne son avis, mais en écrivant éditorial, en disant attention, là on va au-delà des faits, on vous donne notre avis, c'est ça un édito, c'est comme une petite lumière rouge qui s'allume pour dire attention, c'est une analyse, hein, ça n'est que notre avis, vous êtes libre ou pas de la partager. Le Monde dit dans un édito, la destruction de Gaza doit cesser. Alors vous êtes plusieurs à me dire, bah, c'est comme la guerre en Ukraine, on n'en parle plus. Alors moi je vous en parle, C'est-à-dire que peut-être que les médias audiovisuels, moi je regarde très peu la télé, vous le savez, je ne regarde pas trop les JT, je ne regarde pas trop les chaînes info, par manque de temps et aussi parce que je suis un amoureux de la presse écrite, peut-être que les médias audiovisuels ne vous parlent pas de la guerre en Ukraine. Je peux vous dire que la presse écrite que je vous lis tous les matins, elle vous parle de l'Ukraine tous les jours, avec des articles extrêmement précis sur la situation encore aujourd'hui. J'en ai pas mis de côté aujourd'hui, mais il y en a. Quand Imfox dit « Pourquoi n'entendons plus parler de l'Ukraine ?» Peut-être sur Internet, peut-être à la télé, mais je peux vous dire que la presse écrite, elle, vous parle de l'Ukraine avec des sujets qui sont extrêmement... Avec des articles qui sont extrêmement carrés, et je vous en parle régulièrement ici, les habitués de la chaîne, vous le savez. Donc on se penchera sur la situation à Gaza, et puis, la suite de ce feuilleton. On a des chouettes articles ce matin. Alors, Franck, tu as raison, et pas seulement. Franck dit... Les médias parlent de ce qu'il y a de nouveau, voilà, et les guerres continuent tant qu'elles enrichissent les États bénéficiaires, les vendeurs d'armes, entre autres. Tu n'as pas tort dans ton constat. Alors, les médias parlent de ce qu'il y a de nouveau, oui, il y a un peu ça, que je regrette d'ailleurs, une info chasse l'autre. Il y a autre chose. Les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs, les viewers se lassent aussi, voilà, d'une actualité qui se répète. Voilà, une guerre qui dure, un conflit qui dure, une crise qui dure. Un journal aujourd'hui qui ferait sa une tous les jours sur l'Ukraine ou sur le Proche-Orient verrait progressivement ses audiences en radio ou en télé, ou ses lecteurs en presse écrite diminuer, en fait. Et donc économiquement, à un moment, ça ne va pas le faire. Un journal qui ne se vend pas, un JT qui n'est pas regardé, c'est un journal qui s'arrête, qui meurt, voilà, qui licencie les gens. Donc à un moment, il faut aussi proposer à ses lecteurs, ses auditeurs, ses viewers, ses téléspectateurs, quelque chose qui les intéresse. Donc il y a aussi une part de responsabilité dans la consommation d'informations. Hein. C'est une responsabilité médiatique, mais pas seulement. Voilà. On pourrait tout à fait carré là-dessus. Quoi. Voilà. Alors après, ça dépend du média. Comme le dit Jacques Aldi, je lis tous les jours au moins un article sur l'Ukraine dans la presse traditionnelle, comme Le Monde, sur Internet. Il suffit juste de lire un petit peu, effectivement. Souvenez-vous à un moment que moi je pense qu'il faut critiquer la presse. Il faut dire qu'il y a une presse de qualité et une presse de moindre qualité. Il faut dire que la presse de qualité parfois se trompe, fait des erreurs, qu'elle doit reconnaître, etc. Moi, je suis un amoureux de la presse, mais un amoureux critique. Et il faut un regard critique sur notre travail, y compris moi. Je peux aussi vous raconter des salades. Et il faut me le dire et il faut que je m'excuse quand c'est le cas. Voilà. Mais à un moment, on a aussi les médias qu'on mérite. On a aussi la presse qu'on mérite. À un moment... Quand plein de gens regardent de la merde, ben vous incitez, là je parle de télé par exemple en matière de divertissement ou autre, ben vous incitez les gens qui fabriquent la télé, les producteurs, les directeurs de chaîne, à vous donner de la merde. Et quand, inversement, des programmes de qualité un petit peu exigeants ne rencontrent pas leur audience et donc économiquement ne sont pas viables, ben vous n'incitez pas les acteurs derrière non plus à les produire et à vous les proposer. Donc à un moment, c'est une co-responsabilité. C'est une co-responsabilité aussi, quoi. Alors, je ne donne pas d'exemple. Hein. Vous me donnez plein d'exemples d'émissions qui correspondent à cette définition de la merde. Après, c'est libre à vous de mettre derrière ça ce que vous voulez, quoi. Mais à un moment, on peut pas toujours dire que c'est la faute des autres, quoi. Hein? Voilà. Un bon petit moment moralisateur par Papy Sam, là. Voilà. Tiens, la presse préférée de Jean-Sébastien, par exemple, c'est le Presse Agrumes. Voilà, moi ça, je valide ça. Je valide ça. Je valide. Dream in Law, merci pour le sixième mois d'abonnement. Alors ça, c'est un feuilleton qui est incroyable. On en parlera aussi. C'est ce qui se passe autour de ChatGPT, de l'entreprise, comment ça s'appelle, l'entreprise qui a créé ChatGPT, merde, OpenAI. Bon, je le prononce en français parce que sinon, je n'y arrive plus. Le patron Sam Altman, que vous voyez à gauche ici, c'est un gamin en fait. Hein. C'est fou ça. C'est celui qui a des cheveux à gauche là, qui a été viré par le conseil d'administration. Ils sont pas d'accord sur la stratégie, sur l'IA. C'est passionnant d'ailleurs. Est-ce qu'on doit super encadrer l'IA, faire super attention ou non? C'est aussi un truc qui doit faire de la thune, des profits. Donc bref, il a été mis dehors. Microsoft, qui est un des actionnaires principaux de l'entreprise, a fait pression pour que la boîte reprenne Sam Altman. Et puis comme ça n'a pas marché, voilà, 38 ans, bah, c'est un enfant, c'est ça. Et comme ça n'a pas marché, bah, vous savez quoi, bah, Microsoft a embauché Sam Altman. Voilà, donc ça pose plein de questions. Que va devenir l'entreprise OpenIA? Voilà, qu'est-ce que va tenter de faire Microsoft en matière d'intelligence artificielle? Et puis ce qui est très intéressant aussi, c'est que le nouveau patron de la boîte OpenAI, là, donc je le dis toujours en français, pardon, hein, eh bien c'est Emmett Shear, qui est l'ancien patron de Twitch, hein, qui a été patron de Twitch jusqu'en mars dernier. C'est lui d'ailleurs qui avait cofondé Twitch, voilà. Twitch qui a été racheté par Amazon en 2014. Et donc c'est l'ancien patron de Twitch, qui est un garçon assez brillant, hein, qui s'appelle Emmett Shear, qui est jeune aussi, hein, qui a fait plein de trucs assez incroyables en matière internet, qui est le nouveau patron d'OpenAI. Donc c'est pas n'importe qui, c'est vachement intéressant. Ah, l'article est déjà un petit peu en retard. Sam veut revenir chez OpenAI. Je me demande si c'est pas toi qui es un petit peu en retard, Blachemer, parce qu'on a déjà parlé de ce sujet hier, et on a déjà parlé du fait que Sam Altman voulait revenir à OpenAI, mais que ça n'avait pas marché en fait. D'où la nomination d'Emmett Shear. Voilà. On a déjà parlé de ça hier. Donc on va voir ça tout à l'heure. Mais en fait, il est déjà revenu dans les locaux en disant c'est bon, ça le fait, puis en fait, ça l'a pas fait quoi. Donc je ne sais pas qui est en retard, mais il y a plein d'épisodes. Oh, Pilo, est-ce qu'on peut. Moi, je suis tombé amoureux de ce message là. Je découvre ton émission et j'en suis déjà amoureux. Quelles sont tes horaires de stream, s'il te plaît? Oh, Pilo! Écoute, Pilo, on essaie d'être là tous les matins. En gros, entre 9h et midi. Bon, parfois ça varie. Ce matin, c'est entre 8h45 et 10h45 parce que j'ai un rendez-vous. Mais en gros, tous les matins, on essaie d'être là du lundi au jeudi, lundi au vendredi pour la revue de presse. Hein, la matinée Étienne. On lit les journaux, on partage ça ensemble, on en parle, on discute. Et puis, il y a d'autres rendez-vous sur cette chaîne. Le vendredi, l'hebdo Étienne. On revient sur l'actualité de la semaine avec 4 invités. Des journalistes, des streamers, des youtubeurs, des personnalités, des humoristes. Et on passe un bon moment ensemble, même parfois quand l'actualité est dramatique. Ça, c'est l'hebdo Étienne, ça existe depuis un an et demi. Et puis, ça me plaît, le dimanche soir, l'émission sur le jeu vidéo. Et tous les dimanches soirs, je découvre un nouveau jeu vidéo. Je comprends rien, j'ai 35 ans de retard et ça fait rire tout le monde. Voilà. Puis, il y a d'autres trucs, d'autres émissions, mais je ne vais pas tout vous raconter. N'hésite pas, en tout cas, tu passes quand tu veux. Profitez de l'hebdo Étienne parce que j'espère qu'elle va se poursuivre après janvier parce que c'est une émission bon, qui demande un peu de moyens à produire, à fabriquer. Et voilà, mon partenariat actuel s'arrête en fin décembre. À ce jour, je n'ai aucune certitude de pouvoir continuer à vous proposer l'hebdo Étienne après janvier. Voilà, je fais tout pour, ça fait des mois que je travaille là-dessus, mais il faut comprendre que c'est compliqué aussi pour une marque, un sponsor de soutenir un programme d'information dans lequel on va aborder plein de sujets qui fâchent, voilà. Donc moi je comprends tout à fait que c'est très compliqué pour une boîte d'appuyer ce programme, mais je ne peux pas fabriquer l'hebdo Étienne sans soutien, parce que ça me demande trop de moyens, quoi. Donc bon bah c'est pas grave, hein. Moi ça fait des mois que je travaille là-dessus, si c'est possible, c'est possible. Mais après je peux pas, mais c'est pas grave, on fera autre chose, je vous ferai une autre émission, on va inventer autre truc, de toute façon j'ai un milliard de projets, voilà. Mais en tout cas je vais faire le maximum, mais parfois le maximum ne suffit pas. Et France Télévisions ont été très clairs là-dessus, hein. Ils m'ont soutenu pendant un temps, mais ils peuvent pas me soutenir indéfiniment sur ce soutien. C'était un soutien, c'est France Télévisions qui était mon partenaire et mon soutien sur cette émission. C'était un soutien super amical, super gentil, d'accompagnement, mais ils m'avaient prévenu depuis très longtemps, c'est pas un soutien qui durerait ad vitam aeternam, et donc c'est un soutien qui doit s'arrêter la fin décembre, ce qui est fine, hein. C'était prévu, et aucun souci par rapport à ça, ils m'avaient prévenu. C'était comme le dit Choupichon, merci de leur aide au lancement. Après, c'était à moi de trouver le partenaire pour m'accompagner. Je ne l'ai pas trouvé à ce jour, voilà. On est fin novembre déjà. Bon. Et encore une fois, c'est très dur, je pense, pour une marque d'accompagner un programme d'information, ce que je comprends tout à fait. Voilà. Donc on parlera d'IA, et puis on finira avec cet article que je trouve vachement intéressant. Un nouvel album de Gaston Lagaffe, le gaffeur le plus célèbre de la bande dessinée. Alors les plus jeunes, je ne sais pas si vous connaissez. Effectue un retour réussi en librairie ce mercredi. Je crois qu'il y a 800 000 exemplaires de cette BD qui vont sortir. 27 ans, c'est énorme après le dernier album. Comeback retardé par un conflit entre les éditions Dupuis et la fille de Franquin. Franquin qui s'était opposé à ce que le personnage lui survive. Hein, Franquin qui est mort il y a un moment déjà. Et donc l'histoire est passionnante. Et elle oppose deux légitimités. Vous verrez, voilà. Donc il y a un débat qui est intéressant et une BD qui semble réussie. Voilà, donc on finira avec ça. En tout cas, moi je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle. J'avais loupé l'actu, une nouvelle BD de Gaston Lagaffe qui sort. Vous me direz ce que vous pensez de cette BD. Peut-être pas parce qu'on ne pourra pas la lire ce matin ensemble, mais elle sort aujourd'hui ou demain? Elle sort demain. Voilà, 800 000 exemplaires. Mais en tout cas, vous me donnerez l'avis sur cette histoire qui est passionnante. Je suis pas sûr, vous êtes plusieurs à me dire est-ce que tu pourrais pas lancer un financement participatif pour l'hebdo Étienne? Je suis pas sûr en fait. Ça m'ennuie. Il y a déjà le système des subs sur Twitch. Moi j'aime bien quand c'est les autres qui payent à votre place. J'aime bien quand c'est une marque ou c'est une entreprise qui finance un programme pour pouvoir vous le proposer, mais je suis pas super séduit par l'idée de faire appel à la générosité publique, quoi. Voilà. Donc c'est pas une envie que j'ai. Bon, non, là, que je n'en reparle. Peut-être que je vais trouver. Le moyen, un moyen ou un autre, hein, de poursuivre l'hebdo Étienne. Ça peut être aussi peut-être qu'il faut peut-être que je repense cette émission pour que le contenu soit plus facilement accompagnable par une entreprise, quoi. Voilà. Voilà. On trouvera une solution. En tout cas, moi, je comprends. Vous avez certains sites, des grands noms d'entreprises, c'est des boîtes avec qui je suis en contact, avec qui je parle. Moi, je pense qu'il est compliqué pour une marque qui n'est pas une marque d'info, genre France Télévisions ou un média quelconque, une marque d'info, d'apposer son nom à un contenu info où on va parler de guerre. Où on va parler de crise, où on va parler de drame, où on va parler d'Ukraine et de Proche-Orient, quoi. Voilà. Et moi, je pense que c'est compliqué. Ça, je le comprends tout à fait, quoi. Voilà. C'est pour ça que MMG dit, ouais, je pense que ce serait mieux que ce soit un média qui te soutienne. Peut-être. Peut-être les Montescalistana, peut-être, ouais. Demande aux invités de payer. Non, Til Paris, non. Voilà. Ou CNews, oui, très bonne idée de You Far Away, qui propose CNews, par exemple. Voilà. Bon, voilà, c'est la première fois que je vous en parle, donc ça provoque quelques réactions, mais c'est pas grave. Moi, je suis de nature optimiste. On trouvera des solutions, et si on n'en trouve pas, on fera autre chose, et c'est pas très très grave. Là, je vous parle de l'hebdo Étienne du vendredi. Je ne parle pas de la matinée Étienne. La matinée Étienne, elle n'a pas de sponsor, elle n'a pas de parrain, elle se finance grâce à vos subs, en fait, hein, la matinée Étienne. Mais l'hebdo Étienne, c'est un autre sujet. Il me faut plus de moyens. Il y a une petite équipe, il y a des invités, il y a des frais. Voilà, donc c'est une autre équation. Voilà. La revue de presse que je propose le matin, elle n'est absolument pas menacée. Ça restera, bien sûr, le cœur de ma chaîne pour ever, quoi. Ever. Ça, je ne vous parle pas du rendez-vous du matin, je vous parle uniquement de l'émission du vendredi soir, l'hebdo Étienne, pour ceux que ça rassure certains, quoi. On y va? C'est parti? Allez, go! Quelle heure il est? On a on a une heure et quart, puisqu'à 10h45, je vous abandonne pour une réunion à propos des Jeux Olympiques de Paris, parce qu'on prépare ça pas mal à France Télévisions. Et ça veut dire qu'on va faire un petit tryhard de l'actu et qu'on va pas s'arrêter, qu'on fera pas de pause, qu'on fera pas de pause musicale, café, c'est parti. On va être efficace. Go! D'abord, cette histoire qui est essentielle, qui est dramatique, qu'on va essayer de comprendre. Plutôt un speedrun, t'as raison, MMG, plutôt qu'un tryhard. On va speedrunner cette actu. Il nous manque des infos, il nous manque encore des infos, mais on a quand même pas mal d'éléments extrêmement graves, extrêmement troublants sur cette histoire. Le drame de Crépole. Le drame de Crépole est à la une ce matin du Parisien. Il plantait les gens à l'aveugle, ce sont des mots d'un témoin. C'est un événement dramatique, c'est une fête de village, une fête dans un petit village de la Drôme, qui s'est soldée par la mort d'un jeune homme qui avait 16 ans, qui s'appelle Thomas. Thomas, 16 ans, est mort, écrit le Parisien, et deux personnes ont été grièvement blessées dans la nuit de samedi à dimanche après des violences inouïes lors d'un bal de village. Les auteurs étaient toujours en fuite lundi soir. À ce jour, a priori, aucun auteur n'a été interpellé. Ça peut changer dans les heures qui viennent. Lisons ce qui s'est passé pour comprendre, et puis on va voir toutes les questions qui se posent. Je vois des F dans le chat qui sont autant d'hommages aux victimes de ce drame. Crépole, deux jours après le drame qui a endeuillé le village drômois, l'enquête devrait permettre de mieux cerner le mobile. Les habitants sont partagés entre stupeur et colère. Comment le bal, c'était un simple bal, a viré au carnage? Je vous lis l'article. Après l'incommensurable tragédie du bal de Crépole qui a fait un mort et plusieurs blessés, dont deux graves ce week-end dans la Drôme, l'agitation est en apparence retombée dans les rues du village de 500 âmes. Les alentours de la salle des fêtes qui accueillait près de 400 personnes samedi pour une soirée accessible sur inscription sont déserts. Ce lundi matin, seuls de rares passants se sont arrêtés devant le bâtiment où des bougies formant un cœur à la mémoire de Thomas, le jeune lycéen de 16 ans, mortellement poignardé, avait fini de se consumer. J'ai l'impression de vivre dans un cauchemar, confie l'une des organisatrices de cette soirée. Ça fait 40 ans, dit-elle, que ma famille participe à l'organisation des événements du village. Une telle violence, on ne l'avait jamais connue, poursuit-elle. J'étais dans la salle quand c'est arrivé, au moment où le DJ annonçait la fin de la soirée, je crois qu'il est 4-5 heures du matin. Les jeunes se dirigent vers les sorties, mais se retrouvent bloqués. Je suis donc allé voir dehors et c'est là que j'ai vu le carnage, dit cette organisatrice. Selon son récit, les jeunes agresseurs qui étaient dehors avaient déjà fait beaucoup de dégâts, avaient poignardé des gens. Je vais donc à la recherche de mon fils de 17 ans qui participe à la fête. Je vois un blessé sur une chaise à qui on fait un massage cardiaque. Elle décrit ce qu'elle voit. Je vais ensuite dans la cuisine. Cette fois, je vois Thomas, le jeune homme qui est mort, qui est à terre, qu'on essaie de sauver. Je n'arrête pas d'appeler les pompiers parce que plus le temps passe, plus on découvre de nouveaux blessés dans les toilettes. Un autre avait reçu un coup de couteau dans le dos. J'ai eu l'impression d'attendre longtemps les gendarmes, dit-elle. Tout le monde s'est réfugié dans la salle car on ne savait pas si les agresseurs nous attendaient encore dehors. Il y avait du sang partout. Un autre témoin décrit une scène de chaos. Il dit « c'était un bain de sang des jeunes de cité ». Ont encerclé la salle des fêtes et plantaient les gens à l'aveugle. Le videur s'est fait trancher les doigts, rapporte-t-il, alors que les auteurs des faits, à ce jour, n'ont pas été identifiés, pas plus que l'endroit d'où ils venaient. On va laisser faire l'enquête. Selon Emmanuel, il n'y a jamais eu de bagarre. Je ne veux pas entendre le mot « rixe », dit-elle. Hein. Ça n'était pas une bagarre, ça n'était pas une rixe, c'était une attaque. Les agresseurs sont venus pour planter des gens gratuitement, martèle-t-elle. Tout ce que je veux, c'est que les responsables soient retrouvés, soient punis. On est tous d'accord là-dessus. Ils sont venus à la soirée avec des couteaux de cuisine et de boucher de 20 cm au moins. De son côté, alors ça c'est un peu... Là on rentre dans le débat. De son côté, le procureur de Valence... Lui, il utilise le terme de « rixe ». Alors c'est un peu bizarre quand on écoute ces témoignages. On n'a pas l'impression d'une bagarre, d'une rixe, mais plutôt d'une agression, d'une attaque. Alors pourquoi ? Peut-être qu'il va d'ailleurs changer et corriger ou pas. Le procureur de Valence utilise le terme de « rixe ». Dans la nuit, au moins une dizaine d'individus, 10 procureurs, se sont non inscrits à cette manifestation, se sont présentés à l'entrée pour participer à la soirée. Quelqu'un me demande ce que c'est une rixe. Une rixe, c'est une bagarre. C'est une bagarre. Alors que la soirée s'achevait, un incident opposait l'un des quatre agents de sécurité avec un des individus non inscrits. Cet incident, pour le procureur, dégénéra en violence avec arme blanche, le vigile étant blessé et la dizaine d'individus arrivés nuitamment formant alors un groupe hostile. Des participants inscrits à la soirée venaient alors au soutien des vigiles et s'ensuivait une rixe qui se poursuivait à l'extérieur, détaillait lundi soir le procureur Laurent de Kenny. Le procureur estime que... Alors ça, c'est l'enquête. Hein. C'est l'enquête qui va le dire plus tard. C'est là où il faut avoir un moment, un peu de patience. Hélas, même si parfois l'émotion, le drame appelle des réponses immédiates, mais parfois il faut savoir attendre quelques heures, quelques jours. Pour le procureur, il y a une dimension où des participants de la soirée sont venus soutenir les videurs dans la rixe, la bagarre violente, donc pour ceux qui ne maîtrisent pas le mot rixe, avec les agresseurs extérieurs. L'enquête pour homicide et tentative d'homicide en bande organisée a été confiée aux gendarmes. Alors l'enquête, ce n'est pas une enquête pour bagarre. Hein. L'enquête, c'est une enquête pour homicide et tentative d'homicide en bande organisée. Donc déjà, c'est intéressant parce qu'il y a le mot rixe qui est utilisé par le procureur, mais quand même, l'enquête, elle est pour un motif qui est gravissime, qui est pour homicide et tentative d'homicide en bande organisée. Donc ça, c'est encore autre chose. Le procureur qui affirme que des suspects sont en cours d'identification, on espère les retrouver, bien sûr. Il faut à ce stade rester prudent sur l'origine des agresseurs, là c'est un autre sujet. Est-ce que tous les agresseurs venaient de la même ville, du même quartier, dans la même ville, avec cette idée qu'il pourrait y avoir un phénomène de bande. Alors, de sources proches de l'enquête, que dit-on ? Il faut à ce stade rester prudent sur l'origine des agresseurs, tandis que certains évoquent tout de suite le quartier de la Monnaie, le quartier de la Monnaie, qui est un quartier compliqué, dit le Parisien, de Romans-sur-Isère, Romans qui est une commune de la Drôme, hein, que je connais un peu parce que j'ai habité dans la région. Le procureur de Valence, au regard des avancées de l'enquête, souligne que la précision du déroulé des faits doit permettre de mieux cerner le mobile de cette trixe. Au regard de ces avancées, il est cependant faux, dit le procureur, d'affirmer que le groupe hostile serait composé d'individus tous originaires de la même ville et du même quartier. Les liens qui peuvent exister entre les suspects possibles, on sent qu'ils ont identifié des gens quand même, et en cours d'identification ne semblent pas reposer sur une telle logique de territoire. Voilà. Donc pour le procureur, on n'est pas certain que tous les agresseurs venaient du même quartier. Voilà. Moi, je vais quand même sur les témoignages aussi, j'ai d'autres témoignages, et j'ai des témoignages de gens sur place qui disent ça. Tous ont raconté la même chose. Une bande fournie, arrivée via deux minibus, potentiellement loués, auraient d'abord déposé leurs passagers, peut-être pour participer à la soirée, quoi, où ils ne s'étaient pas inscrits, vous l'avez compris, avant de revenir plus tard les chercher. Deux des agresseurs auraient tenté de pénétrer dans la salle, d'où ils auraient été refoulés. Alors toute la bande aurait patienté sur le parking, attendant la sortie des fêtards pour donner libre cours à un déferlement de haine aveugle. Quelle est ? Beaucoup de questions. Et là, je vous invite à attendre quelques heures, quelques jours, les progrès de l'enquête. Beaucoup de questions. Est-ce que, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que ce sont des gens qui ont voulu squatter une soirée, qui ont voulu s'inviter à une soirée où ils n'étaient pas inscrits, qui ont tenté de rentrer, se sont fait virer par des videurs. Et c'est là où il y a deux, vous l'avez compris, deux histoires qui divergent, deux histoires qui ne sont pas les mêmes. Est-ce que dans ces cas-là, cette bande a attendu la fin de la soirée pour s'en prendre à tous les gens qui sortaient, en poignardant au hasard, provoquant la mort d'une personne de 16 ans, d'un garçon de 16 ans, ou alors, enfin l'histoire n'est pas très très différente, ou alors bagarre entre les videurs et certains des membres de cette bande, et puis des gens qui sortent parmi les participants pour venir soutenir les videurs, une bagarre générale et les victimes dont on a parlé. C'est pas tout à fait la même histoire, les conséquences sont hélas les mêmes, voilà, pour cette histoire. Je voulais vous lire ce qu'on en savait, et on en saura un peu plus dans les prochains jours. Je vous lis maintenant là-dessus, en vous appelant à la plus grande sérénité sur ce sujet compliqué. Dans tous les cas, c'est dramatique, dit Isenberg, bien sûr que c'est dramatique. Ludwig Bauge, merci pour le gentil message pour le 7e mois d'abonnement. Electrip45, merci pour le 27e mois d'abonnement. French Yugio, merci pour le 10e mois d'abonnement. Jeunesse, merci pour le soutien aussi. Alors, Déjà, venir à une soirée avec des armes blanches. Un gros gros danseur qui pose une question. À quel moment tu vis à une soirée avec des couteaux de 20 cm quoi? À quel moment tu vis à une soirée, si ton intention est de t'amuser, de passer un bon moment, juste de participer à la soirée, à quel moment tu viens avec des couteaux de 20 cm à une soirée? Bonne question, bonne question, bonne question, bonne question. Stella Arnir, tu, mon ami, bienvenue, il ne faut pas parler quand on ne sait pas. Stella Arnir dit, on ne parle plus de Gaza, ça y est, c'est la paix. Si tu avais été là 5 minutes plus tôt, tu aurais vu dans le sommaire qu'on allait parler de Gaza et qu'on est peut-être un des seuls médias sur Twitch à parler de Gaza tous les jours depuis cette semaine. Et que ici, même si les médias télé et Internet se détournent un peu du Proche-Orient, nous on en parle tous les jours. Donc c'était l'arnir. Quand on ne sait pas, on ne dit pas. On se retrouve dans 5 minutes pour parler de Gaza. C'est dingue ça, on n'est pas sur Twitter ici. Hein. Allez, on revient à notre drame de Crépole. Règlement de compte, s'interroge Wayne Black. Les armes blanches questionnent quand même sur leurs intentions premières. Leurs intentions premières, Alain Melon. Et quand je dis cette semaine, c'est pas cette semaine, c'est cette semaine, bien sûr. Excusez-moi, j'ai un message de l'ami Joe sur une question que je lui ai posée. Ouais. Ça m'a cuchant. Impossible de commenter ça. Je comprends pas comment on peut en arriver là. J'ai le même problème en fait. C'est le même problème. Alors je vous ai pas mis l'édito sur le Parisien, sur la hausse de la violence dans notre société. C'est compliqué ce sujet. Certains affirment que même si il y a des faits divers dramatiques comme ça qui se produisent dans notre pays, en fait, il n'est pas sûr que la violence augmente dans notre société. Il n'est pas sûr qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, notre société a été moins violente qu'aujourd'hui. C'est juste que peut-être que... on se rend plus compte aujourd'hui avec l'éclairage médiatique, quoi. Je pense que de tout temps, y compris dans notre pays, il y a eu des dingos qui faisaient des dingueries et des monstruosités. Voilà. Il y a des chercheurs, il y a des sociologues qui disent ça n'est pas vrai, la violence n'augmente pas dans notre société, au contraire, elle aurait tendance à diminuer sur le très long terme. C'est juste que cette violence est plus exposée, plus documentée que dans le passé, en raison des médias, quoi. Et peut-être qu'on la tolère moins, cette violence, aujourd'hui, dit Hardevin. On négative, a sans doute vu aussi ces enquêtes selon lesquelles la société s'est un peu pacifiée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après, ça n'enlève rien à la monstruosité de ce qui vient de se passer dans ce petit village de la Drôme, quoi. Ben Paulet se balade dans Paris, visiblement, il y a 100 ans, c'était pas foufou. Et dans les années 60, les blousons noirs faisaient quelques dégâts aussi, oui. Moi, j'ai été agressé au couteau... à Paris, il y a très longtemps. Bon, j'ai pas pris le coup de couteau, hein, mais une nuit, je revenais du travail, puisque je travaillais déjà à des horaires bizarres. Et c'était il y a 20-25 ans, quoi. Voilà. Et puis, bon, et statistiquement, j'ai été moins agressé au couteau ces dernières années qu'il y a 20-25 ans, quoi. Après, c'est une statistique très personnelle, quoi. Bon, on va y revenir, encore une fois, des constats, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, et on reviendra sur ce drame de Crépole, parce qu'il faut revenir sur ce drame de Crépole, parce qu'à un moment, il faut comprendre dans notre société comment un gamin de 16 ans, c'est ce jeune garçon là, c'est un enfant, hein, de 16 ans, peut trouver la mort en allant à une fête de village, quoi. Ça n'est pas nouveau. Ce genre de fête d'hiver dramatique existe depuis la nuit des temps, y compris dans un pays comme la France, mais il faut le comprendre, parce que ça n'est pas possible. Pas si on estime être une civilisation, quoi. Donc on en reparlera dans les prochains jours, on aura peut-être plus d'infos. Alors, de la même manière, hier, vous avez été plusieurs à m'interroger sur l'élection présidentielle en Argentine, et je vous ai dit... Attendons d'avoir quelques articles de plus parce que j'étais pas content, satisfait de ce que je trouvais. Sans doute à raison du décalage horaire d'ailleurs par rapport à l'Amérique latine. Les papiers, je les ai, donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé en Argentine et ce qui a mené à l'élection de, alors ça dépend des journaux, de l'ultra-libéral, du candidat d'extrême droite, voilà, les qualificatifs sont différents selon les journaux, Javier Milei en Argentine. Vous avez un article dans Le Monde, vous avez un article, un dossier même dans Libération, il y a aussi un dossier dans l'Humanité qui parle carrément d'un fou dangereux. Alors vous comprenez que le profil de l'homme est un petit peu particulier. Je fais une petite parenthèse pour répondre à la question de Tata Germaine qui a vu l'article du Parisien « Manger les œufs de votre poulailler est déconseillé ». J'ai failli vous mettre l'article de côté, mais je ne vous l'ai pas fait parce qu'il y a trop de choses dans la presse. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, effectivement. Il y a une recommandation, une interdiction de consommation des œufs chez les particuliers. Vous avez des poules chez vous, en Île-de-France, en région parisienne. Voilà. Il ne faut pas les consommer, il ne faut pas les donner, pour des raisons, je la fais très courte, d'environnement empoisonné, de sol empoisonné. Voilà. En fait, les poules qui sont à même le sol, en fait, qui consomment des vers, etc. Il y a dedans des perturbateurs endocriniens. Je vous fais très très rapide, hein, parce que je vous ai lu l'article, mais je vous l'ai pas mis de côté. Et en fait, donc ça passe dans la poule, c'est stocké. Et ça passe dans l'œuf aussi, c'est stocké. Et après, ça passe à l'homme quand on le consomme. Et en fait, on ne sait pas se débarrasser naturellement de ces perturbateurs endocriniens. Et donc ça concerne les poulaillers, on va dire, personnels, quoi, voilà, quand on a quelques poules. Et alors, pourquoi les poules en élevage industriel, c'est autorisé ? Parce qu'il y a des contrôles. Il y a des contrôles qui, normalement, font qu'on est sûr que ces œufs n'ont pas. En tout cas, c'est l'explication donnée par les articles. Voilà. Bon, je vois que ça vous intéresse. Bon, bah, j'essaierai de vous mettre un article de côté. Je ne vous l'ai pas mis de côté ce matin, mais vous avez plein d'articles dans la presse sur ce sujet. Vous tapez poule, Île-de-France, région parisienne. Ouais, c'est l'Île-de-France. C'est l'Île-de-France. Voilà. Mes parents ont des poules et vivent en Île-de-France et mangent les œufs. Demande jeunesse d'œuf, peut-être. Désolé. Je flippe un peu, quelqu'un a un article à partager. Tu tapes sur Google, tu tapes poule, Île-de-France, tu vas trouver plein d'articles. Voilà. Alors après, il y a des gens qui sont sceptiques, qui disent c'est des conneries, je m'en fous, je vais continuer à manger mes œufs, voilà. En tout cas, je vois que ça vous intéresse vachement. Bon, si j'avais su, je vous aurais mis l'article de côté. Bon, bah, je vous le mettrai peut-être pour les prochains jours si j'en retrouve. Voilà. Tiens, je pensais pas que ça vous intéresserait autant. Ok. Allez, on parle de l'Argentine. C'est parti. Le Monde. L'ultra-libéral, dit Le Monde, Javier Milei triomphe en Argentine. Le candidat anti-système a raflé 55,7% des voix à la présidentielle dimanche face au péroniste Sergio Massa. C'est parti. On s'attendait à une victoire, ça a été un triomphe sans appel. Dimanche, les partisans rassemblés devant le QG de l'ultra-libéral Javier Milei à Buenos Aires ont vibré d'un grondant « Liberté ». Liberté, répété comme un mantra. Javier Milei, 53 ans, député de la coalition La Libertad Avanza, La Liberté Avance, investi en politique depuis seulement 3 ans. C'est ça qui est un peu une surprise aussi. Hein. A été élu président de l'Argentine lors du second tour du scrutin présidentiel. Un gars qui arrive en politique depuis 3 ans seulement et qui devient président d'un pays, bon, c'est un peu surprenant, quoi. Une victoire inédite et fracassante, dit d'ailleurs Le Monde. Gaëron, bonne journée à toi. Le candidat anti-système, vous allez voir, il a plein de qualificatifs. Hein. Ultra-libéral, anti-système, libération, l'humanité, disent le candidat d'extrême droite, a donc raflé 55,7% des voix dans un pays gouverné depuis des décennies par deux forces structurantes. Le péronisme, alors il faut revenir dans l'histoire de l'Argentine, du nom du général Perón, président entre 46 et 55 et à nouveau entre 73 et 74, et l'anti-péronisme. Hein. Donc ça, c'est vraiment une situation propre à l'Argentine avec deux forces structurantes qui se caractérise par rapport au péronisme du général Perón ou l'anti-péronisme. Son rival, donc le rival de celui qui vient d'être élu, l'actuel ministre de l'économie et candidat du péronisme, justement, Sergio Massa, n'a obtenu que 44,3% des suffrages. Aujourd'hui commence donc la fin de la décadence. Hein. Qui dit ça ? Bah, c'est le nouveau président qui vient d'être élu pour 4 ans lors de son discours de victoire prophétisant la reconstruction de l'Argentine. Dans des déclarations aussi polémiques qu'extrêmes, figure, alors parce qu'on va se pencher un petit peu sur le programme de ce monsieur qui fait que ça pose plein de questions, figure le remplacement de la monnaie nationale par le dollar, la réduction drastique à la tronçonneuse des dépenses publiques, notamment les aides sociales, l'interdiction de l'avortement, la libéralisation de la vente d'armes. Ouhouhou, ça commence à le faire beaucoup là. La rupture des relations diplomatiques avec le Brésil et la Chine. Javier Milei a bénéficié d'un report quasi arithmétique. Ça, c'est important. Parce qu'il y a les annonces, il y a le programme et il y a ce qu'il va faire. C'est de la politique. Hein. Alors là, faut pas se faire avoir. Javier Milei a bénéficié d'un report quasiment arithmétique des voix de Patricia Bullrich, la candidate de droite, arrivée troisième au premier tour avec 24% des voix. Donc ça veut dire que sans les voix de la droite, ce monsieur ne passait pas. Là, il faut bien intégrer ça. Peu après sa défaite, cette femme avait donc décidé d'apporter son soutien à l'ultralibéral, une alliance chapeautée par l'ancien président Mauricio Macri, centre droit 2015-2019. Vous voyez, ceux qui étaient au pouvoir avant ont soutenu quand même cette candidature. Ce soutien décisif pour la victoire, mais aussi la nécessité de convaincre au-delà de son noyau dur de votants, avait poussé d'ailleurs Javier Milei à modérer son discours de second tour. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, je vais l'expliquer un petit peu plus loin. Alors pourquoi cette victoire ? Le ras-le-bol face à l'enlisement économique du pays, hein, 143% d'inflation sur un an. L'Argentine, sur un plan économique, c'est une catastrophe. Hein. 40% de pauvreté. Après les gouvernements de Mauricio Macri, puis du président sortant Alberto Fernandez, donc centre-gauche, a motivé la majorité des électeurs, c'est une situation économique qui est dramatique, hein, à se tourner vers un outsider sans guerre d'expérience politique. Justement, il va pouvoir tout changer, croit Maria Candia, qui est une lycéenne de 19 ans. La jeune femme aspire avant tout à ce que son président retire toutes les aides sociales. Notre ami défécateur officiel qui était avec nous tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours là, disait, bah oui, c'est l'argument, vous savez, les politiciens qui sont succédés nous ont mis bien dans la mouise. Lui, on ne l'a pas encore essayé. Allons-y, on verra bien. Bon, c'est le genre de pari qui parfois peut se révéler un peu risqué. À supposer qu'il applique son programme. Hein. Le président élu ne dispose pas de majorité au Congrès. Il ne dispose pas de gouverneur provincial. Il ne dispose pas de maire appartenant à sa coalition. Les doutes sur sa capacité à gouverner restent entiers. Cela peut provoquer une paralysie institutionnelle, car même en comptant sur les députés d'une partie de la droite, il n'aura pas de majorité. Aussi, il ne pourra peut-être pas, par exemple, retirer l'avortement qui est légal en Argentine depuis pas très longtemps, je crois. En revanche, peut-être qu'il va pouvoir couper dans de nombreuses dépenses publiques via des décrets, notamment peut-être les aides sociales. Javier Milei a reçu les félicitations de ses modèles. Qui sont les modèles de M. Javier Milei ? Les anciens présidents américains et brésiliens, Donald Trump et Jair Bolsonaro. Donc, bon, on est dans un univers politique qui est un univers politique particulier. Quelqu'un qui se réclame de Donald Trump, qui est dans l'histoire des États-Unis un président particulier, et Jair Bolsonaro. Jair, puisque brésilien, donc portugais, pas Jair. Jair Bolsonaro, un ancien président brésilien, lui aussi un peu particulier dans l'histoire institutionnelle du Brésil, c'est particulier, qui les ont soutenus. Bon, il y a des soutiens de Donald Trump ici, je ne relève pas forcément tous les propos. On les aura, puisque Donald Trump espère se présenter à la prochaine présidentielle, et vous pourrez tout à loisir soutenir le candidat Trump lors de la prochaine présidentielle aux États-Unis, vous vous en donnerez à cœur joie. On ne va pas le faire ici, je manque de temps. Et aussi un petit peu de patience, si vous voulez qu'on reparle de ce qui s'est passé au Capitole et de tous les chefs d'inculpation qui pèsent contre Trump aujourd'hui, je vais manquer de temps. Alors, on va saluer la science du titre de Libération, puis je vous lirai aussi sur l'Argentine, un sacre à la tronçonneuse. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est de la littérature, c'est de la poésie. Hein. Ça n'est pas un massacre à la tronçonneuse, le fameux film, c'est un sacre à la tronçonneuse. Pourquoi ? On en voit un petit bout ici, je ne vous ai pas mis toute la photo, parce que ce candidat qui vient d'être élu président argentin, il n'est pas encore entré en fonction, hein, je ne sais pas quand entrera la prise de fonction, c'est pas tout de suite. Dans tous ces meetings, il brandissait une tronçonneuse. Bon, pardon, je m'arrête sur des détails, mais c'est pas très rassurant, quoi. Alors, c'est pour illustrer les coupes. C'est les coupes budgétaires qu'il va faire, hein. Il brandissait une tronçonneuse, a priori éteinte, enfin, j'espère. Dire qu'il allait couper dans les dépenses sociales, dans les etc. Bon, très bien. Moi, ça me fait un peu flipper quand même. C'est-à-dire que moi, je vois un candidat en France à la présidentielle qui brandit une tronçonneuse dans ses meetings, quel que soit son programme. Hein, pardon, hein, je ne vote pas pour lui. Voilà, que ce soit clair, ça n'est pas un très bon signe. Ça n'est pas un très bon signe. Ah, elle n'était pas toujours éteinte. Parfois, on a vu de la fumée. D'accord, ok. Ok, bon, parfois, elle était allumée. Ok. Ok, ok. Ok. Ah, on l'entend bien. Mais il n'y avait pas de chaîne sur la tronçonneuse. Ah oui, il avait... Ok. Elle marchait, mais il n'y avait pas le truc qui coupe. Ok, super. Je ne vote pas pour lui. Je ne vote pas pour lui, quel que soit son programme. Bon, de toute façon, je ne voterai pas pour ce programme par ailleurs. Mais il y a un moment, je me dis... Bon, vous allez me dire, c'est pas la France, c'est l'Argentine, et c'est censé être une démocratie quand même. Donc non. Bon, donc déjà, ça peut être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà. Et puis, je ne sais pas s'il jouait du piano debout, mais ceci est une autre histoire. Bon, certains, les plus vieux, auront la ref. Alors, qu'écrit Libération à propos de ce candidat ? Il y a quelque chose de fou dans l'ascension de Javier Milei, l'outsider sans appareil dans un pays au parti si structuré. Il y a encore à peine 2 ans, bon, le monde disait 3 ans, il n'était qu'un économiste de plateau télé, invité principalement parce que ses vociférations anti-système et sa coupe de cheveux fantasque. Bon, là, ça va dans l'humanité, mais c'est vrai que parfois, les cheveux un peu foufou. Bon, par contre, moi, je dis non. Moi, la discrimination capillaire, je dis non. Ça, d'ailleurs, je crois qu'il y a un politologue, quelqu'un assez sérieux sur Twitter, qui a dit, dites donc les gens... Qui juge le nouveau président argentin parce qu'il a une coupe de cheveux de foufou, c'est vraiment pas ce qui est important et ce qui est intéressant. Oui, les gars, on ne juge pas un homme politique ou une femme politique à sa coupe de cheveux. On est d'accord. Ça n'a aucun sens, quoi. Donc ça, on s'en fout, en vrai. Ça, on s'en fout, en vrai. Voilà. Il a des cheveux, j'ai envie de dire, tant mieux pour lui. Hein ? Donc, on continue. Donc, il a connu le succès sur les plateaux télé, principalement parce que ses vociférations anti-système, ça marche toujours, ça, de gueuler sur le système, ça marche toujours. Et sa coupe de cheveux fantasque faisait de l'audience. C'est durant la pandémie, qu'il a grandi en popularité au sein des milieux complotistes, qui raffolaient de ses messages anti-vax et hostiles au confinement. Bon, je sais pas si vous êtes très nombreux ici, mais ça, en général, il y a toujours des gens qui disent « Ah, il ne doit pas être si mauvais, alors. » Il est anti-vax, tu vois. Toujours des gens dans le chat qui font « Ah, bah, comme moi aussi, pendant le confinement, moi aussi, je disais ça. » Bon, on va pas y revenir, hein, parce que là, c'est sans fin après. TikTok, YouTube ou Instagram ont été le support de militants de ses fans qui ont étendu l'influence de leur leader et ont mené gratuitement une campagne d'une redoutable efficacité. Ok, donc on voit à peu près d'où il vient, quoi. Au-delà de ces provocations, de la fameuse tronçonneuse brandie à chaque meeting, symbole des coupes budgétaires qu'il veut opérer dans les dépenses publiques, il a capitalisé sur la crise économique et la pauvreté grandissante dans le pays. Il a su écouter et parler au-dessus du péronisme, du modèle redistributif et de justice sociale qu'il incarne aux travailleurs pauvres, chaque jour un petit peu asphyxiés. Le pays ne va pas bien et à un moment, il y a un mec qui dit « Les gars, moi j'ai la solution, quoi. » Après, le problème, c'est est-ce qu'il l'a vraiment ? Avec sa violence, il a incarné aussi la colère de beaucoup d'Argentins paupérisés. Quelqu'un me dit que je fais assez moyennement la tronçonneuse et je suis d'accord, elle n'était pas super. C'est vrai que je sais pas à quoi ça ressemblait, mon imitation de tronçonneuse. C'est quoi là ? J'imite quelque chose, mais pas une tronçonneuse. Je ne sais pas ce que c'est. Une porte qui grince. Ouais, Maori peut-être. Ouais. Un chat. Vous êtes beaucoup sur le chat. Un chat coincé dans une porte. Un petit scooter. Vous êtes beaucoup sur le chat. Un mixeur, une mobilette. Un moustique. Un chat. Un chat digote. Un chat qui sente de la... un chat qui chante de la soul, un aspirateur défectueux, un chat malade, un chat qui grince, une mobilette, une brosse à dents électrique. Non, non, moi j'ai une brosse à dents électrique qui fait pas ce bruit là. Un chat. Vous êtes excellent. Ah, c'est pour ça que j'aime Twitch. Till Paris. Un chat sur un scooter brandissant une tronçonneuse. Est-ce qu'on peut applaudir Till Paris, s'il vous plaît? VGTA66, merci pour le 27e mois d'abonnement. Ah, oh, ça fait du bien de rire. Alors, allons à la fin de l'article de Libération qui est extrêmement intéressant. Il est forcé, ce nouveau président argentin, de nouer des alliances. Hein. De l'establishment qu'il avait promis de mettre dehors dépend aujourd'hui sa possibilité de gouverner. Vous avez vu que la droite l'a soutenu. Ou bien son impréparation politique, son caractère imprévisible et foutraque lui feront-ils renverser la table. L'Argentine entre dans une phase d'incertitude totale. Vraiment, on va voir ce qu'on va voir. Voilà. Bon, l'Humanité consacre également un dossier, mais que je ne vous lirai pas. Parce que ça va faire trop d'Argentine, mais vous pourrez aller le lire sur, alors l'Humanité a choisi son camp, hein, ce fou dangereux, voilà, ultra-libéral, climato-sceptique. Ah oui, je vous ai pas dit ça aussi, il est pas super convaincu que la planète se réchauffe, du coup il veut supprimer le ministère de l'environnement. Bon, je vous ai pas tout dit, hein. Antiféminisme, ah oui, je vous ai pas dit ça, il est, oui, il est antiféministe. Son programme promet du sang et des larmes au peuple argentin. Je vous ai juste mis en jaune quelques lignes du dossier de l'Humain. Les changements dont notre pays a besoin, dit-il, sont drastiques. Il n'y a pas de place pour la demi-mesure. Déjà, quand vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez que quand tu veux transformer un pays, bon, même si tu es persuadé que les choses ne vont pas, bon, ben, c'est un pays, c'est un ensemble d'habitants avec des aspirations différentes. Ça se bouge doucement, voilà, pour ne pas provoquer de crise, il faut... voilà. Il faut connaître, c'est un logiciel extrêmement complexe, quoi. À un moment, un gars qui te dit en fait c'est pas complexe du tout, c'est super simple, je vais faire ça, ça, ça et ça et tout va se régler, à la base c'est dangereux. À la base c'est dangereux. Les changements dont notre pays a besoin sont drastiques, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Tout ce qui peut être dans les mains du secteur privé passera entre les mains du secteur privé. Je répète la phrase, tout ce qui peut être en les mains du secteur privé passera dans les mains du secteur privé. Il se déclare comme le premier président libéral, libertaire de l'humanité. Lors de son discours de victoire, il a réaffirmé sa volonté de privatiser l'entreprise énergétique d'État, ainsi que les médias publics. Voilà. Il a surtout assuré être prêt à appliquer à la lettre ses promesses de campagne, dollariser l'économie, fermer la banque centrale, allez hop, des projets qui pourraient provoquer un véritable chaos économique. Alors, c'était déjà grave en Argentine, est-ce que ça peut être pire? C'est pas impossible. Comment réagirait la population alors que Milei a précisé, alors écoutez cette phrase, c'est une simple phrase mais elle est intéressante, Milei a précisé qu'il n'hésiterait pas à réprimer toute manifestation visant à dénoncer ses futures décisions. Il a déjà annoncé que s'il y avait des manifs contre les décisions, il allait les réprimer. Il a aussi annoncé qu'il voulait libéraliser les ventes d'armes. Il y a comme un parfum d'un truc un peu bizarre qui arrive, quoi. Je dis ça, je dis rien, hein. Il a qualifié la justice sociale d'une aberration socialiste. Hein. Pour lui, toute action de l'État représente une entrave à la liberté. Il a annoncé l'élimination de 11 ministères. Alors, il va supprimer le ministère du Travail, hein, le ministère de l'Emploi. Il va supprimer le ministère de la Sécurité sociale. Il va supprimer le ministère de l'Éducation. L'éducation, c'est pas non plus. Hein. Il veut supprimer le ministère de la santé, des femmes, de la culture et de l'environnement. Voilà. Bon. Bonne chance aux Argentins. Il n'est pas sûr qu'il puisse mettre en œuvre son programme. Il n'a pas de majorité au Congrès. Il est obligé de s'allier avec la droite. Blablabla. On va voir ce qui va se passer, quoi. Donc le pire n'est pas sûr. C'est quand même un programme un petit peu particulier, quoi. Voilà. Bon. C'est lui. C'est marrant parce que c'est curieux. Alors, je viens de penser qu'il me faisait penser à quelqu'un. Alors là, il faut avoir la ref, il faut être vieux comme moi. Est-ce que vous l'avez? Est-ce qu'il vous fait pas penser à un comédien? Attendez, je vais essayer de vous trouver une photo qui ressemblerait. Je l'ai trouvé. Est-ce qu'il vous fait pas penser un petit peu à Benny Hill, bien sûr, le Mutmut, bien sûr, regardez. Attendez, je vous montre. Benny Hill. Attendez. Hop, Benny Hill, là, regardez à droite. Regardez, regardez, regardez. Benny, regardez, regardez, regardez bien, regardez bien. Tac. Eh, c'est le même, c'est le même, c'est lui. Regardez. Tac. Oh putain, c'est le même. Eh, c'est Benny Hill. Bon, les jeunes ne pouvaient pas savoir, c'était un programme humoristique britannique qui passait sur FR3 à l'époque. Je crois que c'était le dimanche soir en fin de journée. C'était de l'humour un peu particulier, un peu... Bon, ça passerait pas aujourd'hui, hein. Notamment dans le regard sur les femmes, c'était quand même très particulier. Mais bon, c'était ce qu'on nous servait à l'époque, voilà. Hein, c'est drôle, hein. Robin Williams? Non, pas Robin Williams. Oh ben non, pas Robin Williams, quand même. Plus Benny Hill, quand même. Ah, comme le dit Franck, Benny Hill était fou seulement à la TV, quoi. Ouais. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. Je suis pas sûr que ce soit très drôle pour l'Argentine, mais on verra ce qui va se passer. Donc voilà pour l'Argentine. Et maintenant, on va parler de bah, du Proche-Orient. Voilà. Donc, réponse à la personne tout à l'heure qui avait loupé le sommaire et qui n'est pas habitué de cette chaîne, qui dit « Bon alors, c'est fini, on parle plus de Gaza, c'est la paix enfin, !» On en parle tous les jours depuis presque un mois et demi ici, quoi. Et je ne crois pas qu'il y ait d'autres chaînes sur Twitch qui vous parlent tous les jours du Proche-Orient. Voilà, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça me semble normal d'en parler d'ailleurs. Donc on va continuer à en parler avec la situation dramatique de la bande de Gaza et notamment de la ville de Gaza. C'est un dossier dans Le Monde, mieux à la une du Monde. Je rappelle que quand un journal met une info à la une, eh bien ça veut dire que pour lui c'est l'info la plus importante du jour, et l'info la plus importante du jour pour Le Monde, c'est la stratégie israélienne du champ de ruines. Et ne m'emmenez pas sur l'Ukraine, Krelimoudi, parce que je suis un des derniers à vous parler de l'Ukraine. Je vous en parle très souvent aussi parce que la presse écrite continue à vous parler de l'Ukraine tous les jours, contrairement je pense à beaucoup de journaux et de chaînes d'info en continu, mais ici on en parle régulièrement. Là on parle de Gaza. La ville de Gaza, brisée entre ruines et quartiers fantômes, Le Monde qui se penche sur l'état dans lequel se retrouve la bande de Gaza après des semaines de bombardements. Près de la moitié des bâtiments de la métropole de 1,2 million d'habitants avant la guerre ont été détruits ou endommagés par les frappes israéliennes lancées en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre. Près de la moitié, ça dépend des estimations, certains disent même un peu plus. Alors, je ne vais pas vous lire le très long reportage de l'envoyé spécial, non pardon, du correspondant dans la région du Monde. Je vous invite à le lire dans Le Monde avec la parole qui est donnée à plein d'habitants de Gaza, mais on va se pencher quand même sur les chiffres. Gaza, écrit Le Monde, est une ville brisée. Un géant aveugle semble avoir piétiné des pans entiers de cette métropole de 1,2 million d'habitants. Depuis les massacres commis par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, les bombardements incriminés de l'armée israélienne l'ont ruiné pour une bonne part. L'armée cherche un ennemi qui se cache au beau milieu des civils, mais elle punit aussi une cité entière, jugée dès les premiers jours coupable des crimes du Hamas par les autorités palestiniennes. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires avance qu'au moins 58% des habitations de l'ensemble de l'enclave sont détruites ou endommagées. Vous voyez, certains disent près de la moitié, certains disent même plus. 58% des habitations de l'enclave, donc on parle de Gaza, de la ville de Gaza, détruites ou endommagées. Voilà. Et là, il y a un édito, dont je ne vous lis pas tout le reportage, mais je vous invite à le lire. Et il y a un édito dans Le Monde, qui est en dernière page traditionnellement dans Le Monde. Donc l'édito, c'est le moment où le journal donne son avis, prend parti, mais vous signale par ce simple mot d'éditorial que ça n'est qu'un avis, que c'est qu'une opinion, qu'une analyse, et que vous êtes libre de partager ou de rejeter cette analyse. Éditorial, la destruction de Gaza doit cesser. Graffu, merci pour le prêt. Au 45e jour, alors je disais... ça fait combien ? Moi, je disais 7 semaines, mais j'exagère peut-être. 7 fois 7, 49. Non, mais non, 7 fois 7, 49. Oui, c'est ça, on est presque à 7 semaines, c'est ça. au 45e jour de la guerre déclenchée par les massacres du Hamas contre les civils israéliens. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait 7 semaines depuis les attentats et ça fait 45 jours de riposte israélienne. C'est bien ça. Au 45e jour de la guerre déclenchée par les massacres du Hamas contre des civils israéliens, le constat est implacable. Les Palestiniens de Gaza ne comptent pas. Aux yeux des miliciens du Hamas, tout d'abord, qui ont lancé leurs attaques et leurs prises d'otages sans aucune considération pour leurs conséquences. Hein, le Hamas savait très très bien ce qui se passerait après. C'est ce que dit Le Monde. Aux yeux de l'armée israélienne ensuite, lancée dans un objectif, l'éradication du mouvement islamiste, auquel est subordonné le sort de plus de 2 millions de civils, aussi fragiles et démunis soient-ils. Aux yeux, c'est pas tout, des alliés occidentaux de l'État hébreu enfin, qui continuent aujourd'hui de juger, bon à quelques tout sautement près, que ce prix à payer, dans ce que vivent les civils palestiniens de la bande de Gaza aujourd'hui, eh bien le prix à payer est somme toute acceptable. Depuis que les militaires israéliens ont pris le contrôle de la moitié nord de Gaza, et là on va se diriger vers le sud, hein, c'est ce qui est annoncé, les preuves de l'éradication du Hamas tardent à se manifester. Celles de la destruction de quartiers entiers de la plus grande ville palestinienne, en revanche, sont à la disposition de qui veut bien les voir, en dépit du huis clos imposé par Israël, puisque vous savez qu'Israël interdit aux journalistes de pénétrer la bande de Gaza. Le cas de la ville d'ailleurs de Gaza n'est pas unique. Partout dans la partie investie par l'armée israélienne, donc dans le nord, hein, l'assaut contre les miliciens et leurs infrastructures se solde en milliers de morts, un chiffre dont les autorités américaines ne doutent plus, et en milliers de bâtiments rasés ou sérieusement endommagés. Réseaux d'eau et d'électricité, voiries, écoles, hôpitaux, rien n'échappe aux frappes ou aux opérations israéliennes qui ont culminé avec la prise de l'hôpital Al-Shifa, dont on a beaucoup parlé ici. Les autorités israéliennes assurent qu'il ne faut pas y voir un esprit de vengeance. Le motif de la présence suspectée ou avérée de miliciens ou de tunnels sert de justification générique aux destructions ou à la mise à l'arrêt d'infrastructures de santé cruciales en temps de guerre. Donc l'armée israélienne dit qu'il n'y a pas d'esprit de vengeance, mais Le Monde écrit, et ça s'appelle une prise de position, comment décrire pourtant autrement le travail méthodique qui fait que la moitié des bâtiments de Gaza est désormais détruite ou endommagée. Les Palestiniens n'en ont d'ailleurs pas fini avec ces ravages, si on en croit les autorités israéliennes qui ont annoncé il y a quelques jours une nouvelle phase de leur opération qui vise désormais la grande ville de Khan Younes, au sud, hein, après le nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne va se diriger vers le sud de la bande de Gaza. Elle vise désormais donc la ville de Khan Younes. L'armée israélienne compte y pourchasser les responsables du Hamas qui se trouvaient manifestement pas dans ce qui a été réduit à des champs de gravats ou ont été prises au piège, en revanche, des milliers de personnes. Civils privés de tout, livrés à eux-mêmes, à une tragique errance, campement de fortune, dénuement extrême, tel est désormais le quotidien de Gaza. Peut-être que vous avez vu des images. Il fait revivre à ses habitants le traumatisme de la Nakba, la catastrophe, qui avait été leur déplacement forcé lors de la première guerre israélo-arabe, 1948-1949. Celle en cours frappe une étroite bande de terre structurellement au bord du gouffre, du fait d'un blocus impitoyable, terrestre comme maritime, imposé par Israël depuis 16 ans, pas depuis quelques semaines, depuis 16 ans, avec le concours de l'Égypte. Parce que, pardon, hein, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une forme de responsabilité des pays de la région, des pays arabes, dans le non-soutien aux Palestiniens depuis quelques années. Hein, les Palestiniens qui ont un petit peu été lâchés par tout le monde. Imposé par Israël depuis 16 ans avec le concours, donc écrit Le Monde, de l'Égypte, d'Abdel Fattah al-Sissi. On parle bien de l'État et du gouvernement et on ne parle pas de l'opinion publique égyptienne ou de l'opinion publique arabe, hein, ce n'est pas la même chose. Année après année, les statistiques socio-économiques effarantes de la Banque mondiale ont attesté du désastre, mais les Palestiniens de Gaza, déjà à l'époque, ne comptaient pas. Voilà. Bon, je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais Le Monde nous le dit ce matin. Voilà pour cette petite page consacrée ce matin au Proche-Orient. On en reparlera. Je vous lis un petit peu, il nous reste un petit peu de temps, il nous reste une demi-heure. On va parler d'intelligence artificielle, de ChatGPT, on va parler aussi de la nouvelle BD de Gaston Lagaffe. Je trouve ça un peu foufou comme histoire, l'histoire rigolote. Je reçois plein de textos. Ok. Y'a Chuchu, merci pour le soutien, merci pour le 8e mois. La situation est folle de A à Z, cliquage 06. Mais tellement, mais tellement. Alors certains disent, ouais, alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, qu'est-ce que... Certains me disent un peu en ces termes, et vous avez raison de m'interpeller là-dessus. Mais alors, qu'est-ce qu'aurait dû faire Israël? Qu'est-ce qu'aurait dû faire l'État hébreu face à la menace du Hamas? Voilà, je n'ai pas la réponse à cette question, je n'ai pas la réponse à cette question. Comme le dit Six à l'instant dans le chat, à la seconde même, est-ce qu'il y a de bonnes solutions en réalité dans ce conflit qui dure depuis 1948, depuis même avant, hein? Achernard, qu'est-ce que tu as ce matin? Ça ne va pas bien, toi, ce matin. Tu dis beaucoup de bêtises, Achernard. Je t'ai connu beaucoup plus inspiré. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est que ce message-là? Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas, ça ne va pas. Quelqu'un t'a piqué ton compte. C'est pas possible. Est-ce que l'enfant qui a pris le contrôle du compte d'Achernard depuis ce matin peut le rendre à son titulaire, s'il vous plaît? Ça ne va pas du tout, là. Achernard, fais attention. Tu dis des bêtises, tu dis des bêtises. On est là pour discuter sérieusement, hein. Tu es un habitué de cette chaîne. Je rappelle qu'ici, tous les avis légaux, non discriminants, exprimés avec respect, sont autorisés. Moi, je parle avec tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais il faut mettre un minimum de respect, de cohérence et d'intelligence dans vos propos, quoi. Je ne vous lis pas le message d'Acharnard, ça n'a aucun intérêt de me faire l'écho de certains propos, mais à un moment, il faut faire des efforts, quoi. Ou aller prendre l'air, je ne sais pas, moi. Ou prendre un petit café. Il y a Jeunesse qui écrit « J'offre un abonnement, qui veut ?» Alors à mon avis, tu vas recevoir quelques messages, toi. J'ai plein de « moi, 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 moi. » Bon, bah, je te laisse faire. Il y a même quelqu'un qui te propose un cookie en échange. Il y a Quentin qui te propose un cookie. Tu es le seul à avoir proposé un cookie. Magique, merci pour le 12e mois d'abonnement. Espèce-conque, merci pour le 6e mois d'abonnement. En plus, c'est mon anniversaire. Il y a Lilios qui essaie de te tenter aussi. Il y a CM qui dit « C'est cool que tu montres également les impacts côté palestinien, contrairement aux médias de la télé qui prennent toujours position pour Israël. » Alors, je ne montre pas... il y a un mot important qui dit « et » dans ton commentaire, qui est « également », effectivement. Hein, je ne montre pas que les impacts côté palestinien, je montre également les impacts côté palestinien. Évidemment que j'ai été comme tous atterré par le massacre du 7 octobre et les 1200 Israéliens civils innocents qui ont été tués par le Hamas, dont de très nombreux, c'est ça qui est fou, partisans de la paix entre Israéliens et Palestiniens dans des kibbutz de gauche qui étaient justement des gens qui espéraient et qui rêvaient de la paix. Donc ce truc est monstrueux. Vous connaissez ma position sur le conflit Proche-Orient. Il y a eu toujours dans les deux camps des gens qui ont aspiré à la paix, des gens qui ont rêvé de la paix, des gens qui en ont payé de leur vie parfois. Le premier ministre israélien Yitzhak Rabin qui a été assassiné. Il y a des Israéliens qui ont voulu, des Israéliens qui veulent encore aujourd'hui la paix. C'est un peu compliqué vu la séquence après ce qui s'est passé après le Hamas. Il y a des Palestiniens et des Arabes qui depuis toujours veulent la paix. Et il y a aussi dans ces deux camps des gens qui ne veulent pas de la paix pour plein de raisons idéologiques ou de calculs politiques. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui ont gagné. Et voilà pourquoi on en est là. Et donc il y a des extrémistes dans les deux camps. Il y a des crimes et des criminels dans les deux camps. Et plus on avance, et plus ça semble difficile de sortir de cette spirale de la violence. Donc moi, je souligne les actes criminels dans les deux camps. Mais effectivement, vous êtes nombreux à dire que dans le traitement audiovisuel, à la télé en France, il y aurait, moi je ne regarde pas la télé, un prisme plutôt pro-israélien. Ce que je constate, moi, c'est que la presse écrite que je lis, les journaux que je lis, que je vous lis le matin, Le Monde, L'Humanité, L'Opinion, Le Parisien, Les Échos, La Croix, Le Figaro, etc., eh bien, on est plus proche beaucoup de ma position à moi, qui est de vous parler de ce qui se passe dans les deux camps et des erreurs et des drames et des crimes des deux camps, plutôt qu'un traitement pro-palestinien ou pro-israélien, quoi. Voilà. Ça, c'est la presse écrite. Après, je ne me prononce pas pour le traitement audiovisuel que je ne consomme pas beaucoup. Tagu dit, la presse écrite fait clairement mieux le taf que les chaînes TV. Alors, je ne sais pas pour les chaînes télé, parce que je ne les consomme pas, mais en tout cas, pour la presse écrite, je trouve que le traitement est assez équilibré, effectivement, depuis le début de cette séquence dramatique. Mononeurone, tu sais que je kiffe ton pseudo et je te remercie pour le 23e mois d'abonnement. Oxymore87, merci pour le Prime. Fapta77, merci pour le Prime. Linu et Olia, j'avais pas vu. Merci pour les 5 abonnements offerts à la commu. L'ami jeunesse qui voulait offrir un abonnement à quelqu'un tout à l'heure qui avait lancé un appel l'a offert, effectivement, c'était pas que des mots, c'est trop mignon. A offert un abonnement à Maori. Je sais pas si Maori avait. Tiens, je vais aller voir. Vous savez ce que je vais voir? Je vais voir si Maori avait promis quelque chose. Non, il avait pas, c'est pas Maori qui avait promis un cookie ou dit que c'était son anniversaire, donc Maori a reçu le sub. Voilà. Magique, merci pour le 2e mois d'abonnement. SP Skonk, merci beaucoup pour le 6e mois d'abonnement. Je sais pas Stando, je suis pas un spécialiste de l'analyse médiatique, même si ça m'intéresse beaucoup. Comment expliquer cette différence du coup entre la télé et la presse écrite? Je sais pas, Stando, je sais pas. J'avoue que je ne saurais pas répondre à cette question. Alors si, il y a Chouba qui dit, Chouba 8 dit, aucun écho dans les médias français des oppositions à l'international contre les bombardements, manifs, actions dans les universités aux États-Unis, en Italie. Tu pourrais parler des rassemblements aussi en Angleterre, à Londres, pour appeler à la paix en soutien aux Palestiniens. Si, la presse écrite en parle. La presse écrite en parle. Alors peut-être que les médias que tu consultes, que tu consommes, n'en parlent pas. Je ne sais pas où tu t'informes, mais la presse écrite que je vous propose tous les matins en parle. En parle. Il reste deux actus. Il reste deux actus et deux sujets que je trouve très intéressants pour des raisons très différentes. Il y a le feuilleton incroyable au sein de OpenAI. Moi, je le prononce à la française et je m'en excuse. Autour du débarquement du patron de l'entreprise Sam Altman sur fond de réflexion sur ce que doit être l'intelligence artificielle. Et son départ donc chez Microsoft, qui aurait réalisé un beau coup. Et puis alors moi, je trouve ça génial. Un nouveau Gaston Lagaffe, même si le sujet provoque des polémiques. Pourquoi la sortie d'une BD provoque des polémiques? On le voit dans un instant dans Le Parisien. Mais d'abord, Les Échos. Excellent journal. Alors Les Échos, c'est un journal qui peut ne pas faire envie en mode « Oh là là, Les Échos, c'est des articles sur l'économie, macroéconomie, microéconomie. Oh là là, c'est sec. L'économie, elle est partout. » Dans le monde de la tech, dans le monde de la culture, dans le monde du sport, voilà. Et du coup, c'est un quotidien qui est un quotidien économique, mais qui est aussi généraliste. Si un jour vous avez un petit peu de temps avant d'aller prendre un train, achetez-vous Les Échos, vous allez voir, c'est un très très bon journal aussi. Julio Franchute, merci pour le 26e mois d'abonnement. C'est parti. Suite du feuilleton qu'on a commencé à couvrir hier sur le cas Sam Altman. Donc débarqué de l'entreprise OpenAI, hein, qui est l'entreprise qui a créé le chat GPT. Microsoft reprend l'avantage dans l'IA en recrutant Sam Altman, titre l'article. Dans la partie d'échec, parce que c'est vraiment une partie d'échec, qui s'est jouée durant 3 jours dans le petit monde de l'IA, Microsoft a conclu le dernier bon coup, estime en tout cas Les Échos. Satya Nadella, le PDG du géant américain, a annoncé lundi qu'il recrutait Sam Altman, le père de ChatGPT, revirement qui pourrait rebattre la donne concurrentielle dans le secteur, notamment face à Google. Cusora, merci beaucoup pour le soutien. C'est comme si Microsoft venait d'acquérir OpenAI pour 0$ et aucun risque de poursuite antitrust, résume un analyste du secteur. L'entrepreneur de 38 ans, on parle de Sam Altman, figure de proue de l'IA générative, s'était fait donc évincer vendredi soir, pour ceux qui ont oublié l'épisode, de son poste de PDG d'OpenAI, à la surprise générale, ça a été un véritable tremblement de terre, dont celle de son partenaire Microsoft, partenaire de l'entreprise, qui avait pourtant misé, comme quelqu'un le rappelle dans le chat à l'instant, plus de 10 milliards de dollars dans la start-up. 10 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça fait un milliard. Mais c'est 10 milliards. À la suite de ce licenciement inattendu, Microsoft et d'autres investisseurs ont mené une campagne effrénée tout le week-end. Oui, Larmina. Bien sûr, Larmina. Bien sûr. Vous vous rendez compte que ça... Je ne sais pas si ça vous rendez compte que ça fait un milliard. Larmina. Mais là, c'est 10. À la suite de ce licenciement inattendu, Microsoft et d'autres investisseurs avaient donc mené une campagne tout le week-end pour réintégrer la star de la Silicon Valley à la tête de la société, qui venait d'annoncer justement il y a peu les premières grandes applications commerciales de son très populaire robot conversationnel. C'est là où en fait quelqu'un me dit « Mais pourquoi cette polémique? Pourquoi ils l'ont viré ?» Parce qu'il y avait des dissensions au sein de l'entreprise entre ce que doit être l'IA, un truc au service de l'humanité, un truc qu'on doit accompagner, un peu encadrer, faire attention, et d'autres qui disaient « Ouais, mais c'est quand même super utile pour les entreprises, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire un petit peu de moula ?» Voilà, bon, c'est à l'hôtel de ce débat qu'il a été débarqué. Mais, alors que dimanche, cette course contre la montre semblait avoir porté ses fruits, donc les pressions de Microsoft et autres actionnaires pour que Sam Altman reste aux commandes, Sam Altman s'affichant même dans les locaux de l'entreprise, eh bien, le conseil d'administration, qui est indépendant des actionnaires, ce qui est une particularité de l'entreprise, a pris les investisseurs à revers en annonçant finalement la nomination d'Emmett Shear à la tête de l'entreprise. Emmett Shear, qui est l'ancien patron de Twitch d'ailleurs, il y a son portrait dans les échos, on se penche dessus dans un instant. Pris de court, et alors que le cours de Microsoft reculait en bourse, Satya Nadella a ensuite repris l'avantage, donc nouvel épisode, en tentant de siphonner les forces vives d'OpenAI et en recrutant notamment Sam Altman, mais aussi d'autres cadres de l'entreprise. Recrutement qui était inévitable pour l'entreprise, pour Microsoft, car l'annonce de l'éviction de Sam Altman était une catastrophe d'un point de vue de visibilité stratégique, dit un expert, un analyste du secteur. On ne sait pas encore clairement si le géant américain, donc Microsoft, compte remettre en question son engagement à long terme dans OpenAI, maintenant qu'il compte créer sa propre équipe d'IA incarnée par Altman. Donc ça, on verra dans les prochains jours. Je vais vous dire dans un instant parce que je vois que ce sujet vous inspire. Microsoft jouait en effet très gros. Le leader du logiciel qui possède près de la moitié de la start-up avec une participation de près de 49% a intégré sa technologie dans toute sa gamme de produits actuels, de sa messagerie Teams à son moteur de recherche Bing, en passant par Windows. On se penche sur Emmett Shear, nouveau patron d'OpenAI dans un instant, mais d'abord je vous lis parce que je vois plein de commentaires. Alors... Blachmer me dit que le feuilleton n'est peut-être pas terminé parce que le recrutement n'est pas finalisé. Tu m'étonnes, je pense que c'est des contrats qui doivent se discuter virgule après virgule. Et il y a encore une possibilité que tout le monde revienne chez OpenAI. Bah on, ouais, genre un accord entre Microsoft et OpenAI, ouais. C'est bizarre ce que fait mon... Ça a freeze ou pas? Ça a freeze chez vous? Parfois c'est bizarre. Le stream se termine plus tôt, David, aujourd'hui, dans 20 minutes. Pourquoi j'ai une réunion. Dans 2 ans, une IA aura sa chaîne Twitch, me dit Krill Limousy. À mon avis, avant. À mon avis, avant. Apparemment, 70% du staff d'OpenAI a menacé de s'en aller si le board ne démissionne pas et ne réengage pas Sam Altman. Tweet de Defend Intelligence, donc vous savez, le streamer qui est aussi ingénieur spécialisé en IA, qu'on a reçu dans l'hebdo Etienne il n'y a pas longtemps, que ça me paraît une bonne source. C'est Jean Valdu qui me cite cette info. C'est tendu. Ah, ça existe déjà plusieurs IA sur Twitch. Bah déjà, Defund Intelligence, qu'on vient de citer, il a déjà mis aux commandes de sa chaîne, à plusieurs reprises, une IA qui avait les traits du président Macron, du général de Gaulle. Ça lui a valu un petit ban d'ailleurs, parce qu'à un moment, le président Macron, sous IA, a dit des dingueries. Donc oui, alors, pour le coup, c'était pas toute la chaîne, c'était un moment de la chaîne de Defund Intelligence. Mais Defund Intelligence n'est pas une IA, hein, c'est un streamer, je l'ai reçu. Ah, c'est pas pareil. Là, vous parlez de ce que fait, en fait, c'est marrant parce qu'il y a Overcrash qui dit ça existe déjà, les chaînes Twitch sur IA, j'ai déjà vu un stream de Mélenchon et Macron généré full par l'IA. Non, ça, c'est l'ami des Defund Intelligence dont je viens de citer, qui à un moment a laissé, quand il dormait, hein, pour dire les choses, des IA prendre la main sur sa chaîne. Mais c'est pas une chaîne gérée par une IA. C'est un vrai gars. Arrêtez avec tout le monde donne le même exemple. C'est la même personne, c'est toujours Defund Intelligence. Ah, par contre, on me dit qu'il y a une chaîne avec Jésus dessus. Il y a même une IA qui stream à jouer contre des joueurs pros et qui les a lavés. Lumaric, sur quel jeu, bordel? Sur quel jeu? Il y a une IA, donc il y a une chaîne Twitch, IA Jésus, qui répond à de nombreuses questions, y compris de geeks. Ça a l'air bien, ça. Le nom jeu, c'est Ozu, on dit Ozu ou Osu? C'est quoi ce jeu? Je connais pas. C'est quoi ce jeu? Il y a une IA anglaise qui casse des culs sur Ozu. On dit Ozu ou Osu? Je suis nul. Ozu. C'est quoi ce jeu? Ah ben, vous n'êtes pas d'accord. Osu. Ozu. Oh putain, génial. Trois avis différents, quoi. Ça fait plaisir. Osu. Ah, le chat! Eh les gars, c'est vous les spécialistes. Je te pose une question simple. Je dis comment on prononce. Et il n'y en a pas un qui est d'accord. Osu. Osu. Ozu. Ozu, ça fait 4 propales. Eh ben génial, ben merci. Ah ben on est bien avancé. Ah ben ça fait plaisir. Ah ben ça fait plaisir. Ah ben vous êtes beau. Ah ben vous êtes beau. Je vous engueule. Bon bref, c'est quoi ce jeu, on s'en fout. Hein. Vous savez quoi, on va pas le prononcer. Hein. Alors il y a Aeria qui dit c'est un terme japonais qui veut dire pousser, voilà. Donc c'est Osu. Voilà. Ça c'est un peu motivé, c'est un peu expliqué. Il y a Captain America qui propose Osobuko. C'est génial parce que vous le dites avec énormément de conviction, donc quelqu'un vient de me dire c'est Osu, il n'y a pas de débat, et il y a Arcandea qui dit ça se dit Ozu, voilà. C'est un jeu de précision et de rapidité, il n'y a pas de débat. C'est formidable. J'adore. Vous comprenez pourquoi l'humanité maintenant est à feu et à sang tout le temps? C'est que tout le monde est persuadé d'avoir raison, quoi. C'est une démonstration. J'adore. C'est passionnant. C'est un très bon jeu de rythme gratuit avec des tonnes de musique. Mais ça a l'air trop bien. C'est un jeu de réflexe, donc les machines seront toujours avantagées par rapport aux humains, parce qu'il n'y a pas de réelle réflexion, dit Lorna. Ah, ça m'intéresse. C'est un super jeu, c'est un jeu de rythme. Ça se prononce chocolatine, me dit Astion. Non, on va pas faire un sondage là-dessus, je sais pas que ça va foutre. Vous êtes plusieurs à me dire que ça vient du japonais et donc qu'on dit Osu. Ah, il y a Murphs qui essaye de mettre tout le monde d'accord, j'adore cette démarche. Il y a Murphs qui dit, Murph00, qui dit, écoutez bien Murphs, parce que je crois que c'est la voix de la sagesse et de la raison qui parle, qui dit, on dit Osu de base. Mais la plupart des gens disent Ozu, ou Ozu, voilà. Ok. Bon, bah voilà, et ben on a la réponse les gars. C'est Osu, mais c'est fine si vous voulez dire Ozu ou Ozu, on vous en veut pas. Mais si, qu'on va faire Gaston, bien sûr. Ok, allez les amis, suite du feuilleton. Microsoft, Sam Altman, IA, dans les prochains épisodes. 10h30. Non, j'ai le temps de vous lire même le portrait d'Emot Shear. Ça, c'est important. C'est l'ancien patron de Twitch. C'est intéressant. Avant de parler de Gaston Lagaffe. Bien sûr. Emot Shear, l'ancien patron de Twitch, qui devient le patron d'OpenAI. Jusqu'au prochain épisode, bien sûr. Le nouveau patron de la startup avait cofondé la plateforme de jeux vidéo. On parle de vous, les amis. Ce diplômé de Yale. Donc, le gars est assez brillant. Et partisan d'une IA sûre et raisonnée pourrait changer le visage d'OpenAI. Entrepreneur, dirigeant, père et père attentif, et vous allez voir pourquoi on dit ça. Le nouveau patron par intérim d'OpenAI, donc peut-être qu'il ne va pas rester, se définit lui-même sur sa page LinkedIn comme un citoyen de l'Internet. Âgé de 40 ans, Emmett Shear n'est pas connu du grand public, mais peut-être de vous, parce que vous êtes un peu des gens qui savent les choses, mais il est un professionnel de la tech, reconnu de longue date. Il est en effet le cofondateur de la plateforme de streaming Twitch, populaire dans le monde du jeu vidéo. Et il a été le directeur général de Twitch, racheté par Amazon en 2014, pendant plus d'une décennie avant de quitter l'entreprise en mars dernier. Il avait alors indiqué qu'il voulait s'occuper de son nouveau-né. Voilà, donc voilà pourquoi les échos en parlent comme d'un père attentif. Il a voulu prendre du recul pour s'occuper de son bébé. Je trouve ça assez cool. Emmett Shear, qui a jusqu'ici eu une approche plutôt prudente de l'IA. En juin, Emmett Shear avait même comparé l'avènement d'une IA super intelligente échappant au contrôle de l'homme à une bombe qui détruirait l'univers, avec une probabilité que cela se produise entre 2% ça va, et 50%, c'est un peu plus inquiétant. Mais l'homme est aussi ambitieux. J'ai accepté ce poste parce que je crois qu'OpenAI est l'une des entreprises les plus importantes qui existent actuellement, dit-il. Donc quand je dis nouveau-né, c'est bébé, c'est pas nouveau-né, hein. Il y a Fanny Schneider qui était partie sur le fait que Emmett Shear avait fait une rhinoplastie. Non, c'est pas nouveau-né. C'est nouveau-né. Il faut que je vous mime l'actu aussi. Il faut que je vous mime l'actu. Ça, c'est un nouveau-né. Ça, c'est un nouveau-né. C'est le problème de la langue française. C'est que parfois, on ne sait plus où on habite, quoi. Voilà. Mais c'était pas mal. Emmett Shear a lancé un audit et promis des changements significatifs de gouvernance si nécessaire. Altman a poussé la société sur un rythme effréné d'innovation. Shear va peut-être incarner plus de contrôle. Il y a en tout cas un background assez solide chez le garçon, diplômé de Yale, ce qui est assez classique quoi, quand même, assez chic je veux dire, où il a obtenu l'équivalent d'une licence en informatique. Il a fondé rapidement sa première entreprise Kiko Calendar avec Justin Kahn, revendu sur eBay, un entrepreneur de la technologie, raconte Business Insider. Et après Kiko, il s'est lancé dans l'aventure du live streaming en créant Justine.tv, Justine TV. Montrant au départ la vie de Justine Kahn, l'un des ancêtres de la télé-réalité sur Internet, ce qui a donné Twitch. Hein, vous le savez, Justine TV étant l'ancêtre de Twitch. Racheté par Amazon en 2014 pour 970 millions de dollars. Moi, j'aurais eu 970 millions de dollars en 2014. J'aurais racheté Twitch, moi. Mais je ne les avais pas. Il m'en manquait... Combien c'était ? 970, il m'en manquait quelques-uns. Il me manquait quelques-uns. Au nez à la barbe de Google, c'est Google qui voulait racheter aussi. Excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi. Voilà. Ouais, parcours, oui, parcours impressionnant, ouais. J'ai un ticket resto pour t'aider à compléter. Gardez vos sous, gardez vos sous. Ailleurs, tu prends un sub, mais gardez vos tickets resto. ASMR, éternuement. Ouais, c'est un petit peu la classe. J'espère qu'il va être bien équipé car les balles fusent chez OpenAI, me dit Mr. Yugis. Les amis, on va finir par un truc plutôt cool et en même temps qui est quand même une polémique. Gardez, oh, Leb Pascal écrit « Gardez vos sous » comme le jeu. À moins qu'on dise « gardez vos zous ». Vous êtes formidables. Qu'est-ce qu'on l'a gaffé de retour, les amis ? C'est genre 27 ans après. Regardez, un nouvel album de Gaston Lagaffe, c'est incroyable. Alors que son créateur ne voulait pas. Exactement, c'est ça la polémique. C'est la polémique. Mais enfin, Lagaffe frappe encore. Le gaffeur le plus célèbre de la BD, qu'est-ce que j'ai aimé lire quand j'étais gamin les aventures de Gaston Lagaffe. Effectue un retour réussi. Réussi, dit le Parisien, en librairie ce mercredi, donc c'est demain, 27 ans, vous rendez compte, 27 ans après le dernier album, Comeback retardé par un conflit entre les éditions Dupuis et la fille de Franquin. Voilà, on a une planche ici. Pardon, mais alors c'est du Gaston Lagaffe, 100%. Eh bien, c'est une nouvelle planche, ça. Voilà. Donc, a priori, vous allez voir, ça n'a pas beaucoup changé. Des espadrilles. Un pull vert est limé à col roulé, une forme de génie pour provoquer des catastrophes. Non, Gaston Lagaffe n'a pas changé et c'est tant mieux. Le dernier album en date, Gaffe à Lagaffe, remontait à 1996, un an avant la mort de son génial créateur André Franquin. 27 ans après, cette icône de la BD fait donc son grand comeback demain, sous le crayon de Delaf, D-E-L-A-F, dans le sobrement intitulé Le Retour de Lagaffe, c'est le nom de l'album, qui est en librairie. Demain. Un album, disons-le tout de suite, qui a tout d'une réussite, dit le Parisien, alors que ce n'était pas franchement écrit d'avance. Mais Delaf, qui est un auteur québécois, il est québécois, connu pour sa série Les Nombrils, je sais pas si vous connaissez Les Nombrils, a su se glisser avec bonheur dans les patins de Franquin. Graphiquement, c'est du Gaston Lagaffe, pur jus, trait pour trait. Le plus difficile était sans doute de retrouver la mécanique des gags, une page, un gag. Mais Delaffe réussit à nous faire sourire et rire à grands coups de boules de bowling folles et de nouvelles expériences de chimie délirantes. Donc le trait est réussi, le dessin est cool. Et a priori, les gags sont là. Les Nombrils de Delaffe, je connais, une pure série, me dit Jugraffe. Oh, Diesel me dit, il est tatoué sur mon mollet, je peux pas vous le montrer, mais je l'adore. Diesel, t'as un tatouage de Gaston Lagaffe sur ton mollet? On voit la photo en vrai. C'est drôle. Quand on m'a proposé de faire un Gaston en 2018, dit l'auteur, donc Delaffe, le Québécois, j'ai grandi avec ce héros à 10 ans. Il y a Diesel qui dit, je peux te l'envoyer sur X. Diesel, si tu m'envoies ton mollet avec Gaston Lagaffe dessus, est-ce que je peux le montrer à la commu ou est-ce que je le garde pour moi? C'est toi qui me dis. Réponds-moi et j'irai voir ton message. Chacun y va de son tatouage. Il y a Julio qui me dit qu'il a un 9 tatoué sur le mollet. Il n'y a aucun problème. Diesel me dit que je peux montrer son tatouage. Ok. Alors Diesel, je vais sur Twitter, je vais sur X, je regarde dans mes DM. Dès que tu m'envoies le message, je montre ton tatouage. Donc l'auteur dit, donc Delaffe qui relance Gaston, quand on m'a proposé de faire un Gaston en 2018, j'ai d'abord été incrédule, j'ai grandi avec ce héros à 10 ans, je me disais comme lui, finalement j'ai dit ok, j'ai choisi de faire à l'identique, hein. Franquin c'était trop sacré pour moi, donc il n'a pas voulu changer notamment le dessin, Clem 564 c'est faux ce que tu dis, mais c'est gentil et je t'en remercie pour le sub. J'ai choisi de le garder dans les années 70. Je conçois cet album comme un hommage pour célébrer le génie de son créateur, détaille le dessinateur. Cette reprise aurait pourtant pu ne jamais voir le jour, tant son accouchement a été extrêmement difficile. Pour comprendre, il faut revenir en mars 2022. En ouverture du Festival d'Angoulême, les éditions Dupuis annoncent alors en grande pompe la publication d'un nouvel album du anti-héros roi des maladresses. C'est ce qu'annonce la directrice générale de Dupuis, qui s'appelle Julie Durot. Pourquoi ? Parce que les ventes de Gaston Lagaffe, je suis en train de vérifier si on reçoit la photo de tatouage, je ne l'ai pas pour l'instant, les ventes de Gaston Lagaffe étaient tombées super bas. 120 000 exemplaires seulement en 2022 pour 21 titres existants, ce qui n'est pas gigantesque. Pour pouvoir vendre du Gaston, pour éviter qu'il tombe dans l'oubli, il faut toujours lui trouver une actu, hein, une actualité. Changer l'ordre des albums, refaire les couvertures. Mais le mieux, ben, c'est une nouvelle BD, c'est un nouvel opus. Relancer Gaston, c'est aussi faire connaître les albums de Franquin. Nouvel album, il y a plein de lecteurs qui vont découvrir ou redécouvrir Gaston Lagaffe et qui sans doute vont aller acheter ensuite les anciens. Moi par exemple, si j'achète demain à Malo et Solal le dernier album de Gaston Lagaffe, il y a de fortes chances que ça va leur plaire, parce que c'est quand même génial. Et ils vont, je crois qu'on a la photo. Oh c'est génial, on a la photo du tatouage. Oh, hop, il est beau. Ah, il est magnifique. Dis donc, tu fais du running, toi. C'est un mollet de coureur, ça. Et puis, attendez, je vous montre. Allez, regardez, vous êtes prêts? On a le tatouage. Hop, regardez. Très beau tatouage. Très bel hommage à Gaston Lagaffe. Voilà. Et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est du mollet de tatoueur, ça. De runner, ça. On est d'accord? Regardez. Le mollet égal B. Le mollet sportif. Voilà, on a une petite chaussure de running en bas là qui nous donne un petit indice aussi. Voilà, très beau mollet, très beau tatouage, très beau mollet si je puis me permettre. C'est du lourd. Ouais, c'est beau hein. Bon, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Pas mal le mollet. Montre-moi ton mollet, je dirai qui tu es exactement. Très beau carrelage aussi, c'est vrai aussi. Merci beaucoup, Diesel, pour cet envoi. Allez, je reviens à mon article. Donc, les ventes de Gaston Lagaffe étaient tombées au plus bas, hein, d'accord. Relancer un album, c'était relancer les ventes globales. Et nous avions, attention, on rentre dans la polémique, un contrat qui nous permettait de le faire, dit la patronne des éditions Dupuis. Le monde de la BD rentre alors en ébullition, puisque de notoriété publique, attention, voilà la polémique, André Franquin avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas que son personnage lui survive, qu'il n'y ait pas de nouveau Gaston Lagaffe après lui. Résultat, la fille du dessinateur est donc ayant droit. Svart, merci pour le 7e mois d'abonnement. Clems, merci encore pour le soutien. Ecusora, merci pour le Prime. Donc sa fille ayant droit annonce deux jours plus tard après l'annonce des éditions Dupuis avoir saisi la justice belge, pour faire interdire l'ouvrage. Le créateur a toujours exprimé de son vivant de manière continue et répétée sa volonté que Gaston ne lui survive pas sous le crayon d'un autre dessinateur, dit alors l'avocat de la famille Dupuis. De leur côté, parce que vous allez voir que c'est plus compliqué que ça, de leur côté, les éditions Dupuis s'appuient sur un contrat. André Franquin et son épouse avaient en effet créé une société, S.A. Franquin, Société Anonyme Franquin, à laquelle l'auteur avait cédé les droits de ses personnages. Alors, il y a Tiklem qui dit « c'est triste que sa volonté ne soit pas respectée ». Ouais, mais hein, il avait créé une société, il avait cédé à la société les droits de ses personnages, et la société, elle a été vendue à Marsu Productions en 92, voilà. Je vérifie un truc. Est-ce que la boîte est vendue avant ou après la mort de Franquin ? 96. Il meurt en 97. Donc, la boîte, en gros, 5 ans avant sa mort, elle est vendue. Donc, on suppose que c'est quand même Franquin, les époux Franquin, qui vendent la boîte. Et dans la boîte, il y a les droits. C'est ça le souci. Cette société a d'abord été vendue à Marsu Productions en 92 et puis à Dupuis en 2013. Franquin a fait stipuler dans ce contrat, écoutez bien, le droit de faire de nouvelles utilisations de ses personnages et de son œuvre. Voilà. Donc, de son vivant, oralement, il avait dit moi, je ne veux pas que Gaston Lagaffe me survive et qu'il revienne. Mais il avait vendu son entreprise, sa société, avec les droits de le faire dedans. Vous voyez ? C'est compliqué. Alors certains disent « Ouais, ça me débecte, on n'a pas respecté son souhait. » Et puis il y a Vince qui dit « Un contrat, ça se respecte. » quoi. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ce sujet, mais est-ce qu'il aurait vendu au même prix cette société si dans cette société, il n'y avait pas eu les droits pour les personnages ? Hein ? Donc je ne sais pas. Mais là, je ne sais pas l'histoire. À partir de là, nous avons contacté, dit les éditions Dupuis, Isabelle Franquin pour lui proposer une rencontre. Finalement, nous lui avons présenté des planches en décembre afin qu'elle puisse nous faire un retour. Elle nous a fait savoir que son père n'aurait pas voulu, mais ce n'est pas ce qui est dans le contrat, dit Julie Duro. Droit moral contre droit patrimonial. Voilà. Voilà. Droit moral contre droit patrimonial. Voilà le litige qu'il a été donné de trancher à la justice belge, parce que la justice belge a tranché ce litige. Dupuis a donc été autorisé le 30 juin à mettre en vente de nouveaux albums, puisque c'est allé en justice. Mais Isabelle Franquin dispose quand même du droit d'émettre des objections sur l'auteur, sur le dessinateur. Ah, c'est mon réveil qui sonne pour mon rendez-vous. Choisi ainsi que le contenu des nouvelles BD. Aujourd'hui, nous sommes toujours en contact avec Isabelle Franquin. Elle a reçu l'album, mais elle n'a pas souhaité faire de commentaires, dit la patronne de Dupuis. L'ouvrage est imprimé à 800 000 exemplaires. Ce qui est énorme, c'est énorme. Plus fort tirage derrière Astérix. Reste à savoir comment il sera accueilli par le public et si la polémique peut laisser des traces. À ce propos, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me dites, et puis après on fera un petit raid pour aller vers mon rendez-vous. Merci Trailogan pour le 11e mois d'abonnement. Ah, business is business, dit Krill Limousy. T'en pensez quoi, vous ? Non, c'est quoi cette histoire, vous ? M'en fous, j'achète, me dit Ali Branchouille. Un petit horoscope ? Ah, un petit horoscope rapide, ouais. Moi, je fonce prendre ce nouveau volet de Gaston, me dit Vince. Capitalisme, quand on lui tient, regrette Sam Akunchan. S'il se vend bien et qu'elle touche sa part, elle se plaindra moins, dit Bernays Edward. Ah, du coup, je ne sais pas si l'héritière de Franquin va touche ou pas, puisque la société a été vendue. Je sais pas du tout ça. L'article le dit pas. Bonne question. Redrum estime les personnages dépassent l'auteur et c'est normal. Il fallait pas vendre la boîte, me dit Matt Sancho. La question est posée par Alain Melon, j'adore. La famille va-t-elle toucher malgré tout une part des ventes? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question, mais c'est une très bonne question. Si on prend l'exemple d'Astérix, me dit Pulsar Nono, je trouve ça merveilleux que Gaston puisse continuer à vivre et ne pas tomber dans l'oubli. Difficile d'avoir un avis sur cette polémique. En vrai, moi, en tant que papa, la perspective de voir un nouveau Lagaffe naître, d'abord en tant que lecteur, hein, moi qui me suis régalé, comme beaucoup d'entre vous, des aventures de Gaston Lagaffe, je suis très heureux de retrouver une nouvelle aventure, de voir le personnage continuer à vivre malgré tout. Ça, c'est assez cool en vrai. Et je me dis que ça va peut-être me donner envie de racheter tous les anciens Gaston Lagaffe pour les faire découvrir à mes enfants, quoi. Fan de BD, je suis déçu de cette décision, me dit Lembishop. Il y a un défécateur officiel qui dit: Sam, pense aussi à prendre tes dispositions pour que personne ne reprenne l'hebdo Étienne après ta mort, qu'on souhaite lointaine, bien sûr. À l'hebdo Étienne, c'est à moi, ça m'appartient. Hein. Comme tous les trucs que je fais ici. Quoi. Effectivement, certains ont l'oreille fine, il y a effectivement quelqu'un qui passe l'aspirateur derrière la porte. Parce que je suis dans un petit immeuble, mon petit studio de stream, et que le mardi, il y a aspirateur a priori. Allez les amis, on va vite sur l'horoscope maintenant, en direct live. Por qué te vas? Por qué? Parce qu'en fait, parce que j'ai un rendez-vous. Qui a gagné? Ah, je crois que c'est Cancer. Non, c'est Sagittaire. Oh, il y a eu une bataille. Bon, les nouveaux, je vous explique tout de suite ce qui vient de se passer. On a un jeu débile ici, mais qui nous fait marrer, c'est le jeu de l'horoscope. Quand je dis le mot horoscope, le premier, la première qui me donne son signe astrologique dans le chat, je lui lis son signe. On n'y croit pas, ça n'est pas scientifique, ça nous fait marrer. Cancer, non, je ne suis pas d'accord, je crois que les mots... Ah si, il faut que je remonte, t'as raison. Et CTF a raison, je me suis trompé. Les modos ont toujours raison, je devrais le savoir. J'ai dit que c'était Sagittaire, mais en fait, c'est Cancer. Cancer. Alors, vous avez plein de cancers à jouer, et étonnant, c'est Diesel, c'est fou. Diesel qui nous a montré son mollet tatoué, très beau d'ailleurs, qui a gagné. Voilà. Alexandra, Cancer avait gagné aussi, mais me l'avait donné un peu plus tard. Et c'est Diesel, Cancer, c'est validé par les modos. Les amis, on va donc sur Cancer. Cancer, vous n'avez pas gagné hier, j'allais Cancer? Non, c'était Lyon. Cancer, c'est où Cancer? Je vais zoomer un peu large, comme ça vous serez plusieurs à pouvoir voir votre signe. Allez. Bélier, Taureau, Gémeaux, Lion, Vierge, Balance, vous pouvez tous lire votre signe parce que je suis un gars gentil. Cancer, cœur, vous serez plus conciliant avec les autres. Hey, c'est cool ça. Cela vous ouvrira des portes insoupçonnées. Ouais, c'est cool, vous voyez, d'être gentil avec les autres. Il faut être plus conciliant. Arrêtez d'attraper le col de la veste de tout le monde en permanence. Là. La vie n'est pas Twitter. Bravo les cancers. Réussite cancer, vous vous contenterez de régler les affaires courantes sans trop stresser. Bien, cool. Tranquille. Forme, faites du sport. Bon, ça vaut pour tout le monde, ça. Tiens, je vais lire mon signe. Taureau, c'est moi, ça fait longtemps que j'ai pas lu mon horoscope. Cœur, des accrochages sont à craindre, mais vous retrouvez ensuite votre complicité avec l'être aimé. Ok. Réussite, vous aurez la tête en l'air. Notez scrupuleusement vos rendez-vous. Ça tombe bien, j'en ai un dans 10 minutes. Forme, bon moral. Eh ben c'est cool. Hop, c'est les amis, hop, c'est pas terminé. Hop, on va faire un raid maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Où est-ce que je suis? Je suis là, j'habite ici, hop. Les amis, faites-moi des propositions là maintenant, dans le chat, de noms, de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement. Et dans 2 minutes, on raid tous ensemble. Je vous mets une jolie musique. On a découvert des jolies musiques là. Pendant que je lis vos propositions... Et dans 2 minutes, chrono, on fait un raid tous ensemble à partir de vos propositions. On fait ça tous les jours depuis 3 ans. Cette chaîne va fêter ses 3 ans dans pas longtemps. C'est une folie. J'aurai peut-être un petit stream exceptionnel d'ailleurs pour fêter ses 3 ans. Un stream comme jamais il n'y a eu encore sur ma chaîne. A tout de suite pour le raid. On va où? On reste dans une minute. On va être dans 30 secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un, et c'est bon les amis, plein de propositions très sympas dans le chat pour notre raid du jour. Presque 3 ans qu'on raid quasiment tous les jours, c'est-à-dire que je raid systématiquement en fin de stream, mais parfois il m'arrive de pas streamer. Ici, je remercie Lisa Epp pour le 15e mois d'abonnement pendant la petite pause, et on va raid une chaîne que j'aime beaucoup, une personne que j'aime beaucoup, quelqu'un avec qui je fais plein de choses, puisque c'est l'ami Pépin, et ça fait longtemps qu'on l'a pas soutenu. Pépin, Pépipin, notre streameuse préférée, notre artiste préféré, notre graphiste préféré, c'est elle qui fait notamment les visuels de Samplay, toutes les émotes, tous les badges de cette chaîne, c'est aussi chez Pépin. En général, c'est elle qui me raide le matin, puisque en général, je commence après elle, mais là, elle est encore en live, donc on en profite. Elle joue un jeu qui s'appelle Jusant. Jusant ou Jusante ? On prononce le T ou pas ? Bref, vous lui demanderez. Je charge le raid, faites coucou à Pépin, vous allez découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas, un magnifique univers et une très belle personne, je l'adore. Prenez soin de vous, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. On se retrouve demain matin, on enchaîne tous les jours demain matin pour la revue de presse, pour la matinée Étienne, pour d'autres infos, d'autres sourires et d'autres moments ensemble. Le raid, pardon, 3, 2, 1, bonne journée, à demain.